ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Emmanuel Ratier, diffusé en direct mercredi 7 mars 2012 de 18h à 21h, en différé jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission est réalisée par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de ce libre journal par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonsoir chers amis, nous nous retrouvons donc pour un nouveau libre journal de la Résistance française. Je suis assisté ce soir par notre ami Henri Dubost, qui est le bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, puisque c'est le responsable du bulletin de réinformation du vendredi, ainsi que de la sélection hebdomadaire du samedi.
Bonsoir.
À ses côtés, Jeanne Spitz, directrice de Présent. Bonsoir. Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol. Et Xavier Aymant, habitué de cette antenne et qui maintenant est affublé à un nouveau titre, il est directeur d'orientation identitaire.
Bonsoir.
Voilà. Nous aurons un club de la presse un peu plus ramassé que d'habitude parce qu'il y aura deux annonces importantes. Il y a Mathilde Parsimperi qui viendra nous parler des Bobardors et j'aurai au téléphone Catherine Blin qui est présidente de Citoyenneté, Nationalité, Identité. Et association qui organise un colloque samedi 10 mars à Paris, dont on parlera jusqu'à 19h30. Et en seconde partie, je reçois Philippe Dugue, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, et Pierre Guilliette, pour un ouvrage tout à fait passionnant, intéressant, atypique et certainement très anticonformiste, puisque ça s'appelle « Je suis partout », anthologie 1932-1944. Et donc, comme nous allons faire dans la douceur ce soir et les droits de l'homme, j'ai également invité Francis Bergeron, qui vient de publier une biographie de Maurice Bardèche chez Pardès. Voilà. Donc, pour cette première partie, le traditionnel clan de la presse, beaucoup d'actualités. Je pense pas qu'on arrivera à tout traiter en une heure. Ce que je vous recommande, c'est d'envoyer vos messages rapidement pour que nous puissions les lire, puisque comme vous le savez, je n'aime pas lire des messages dans la seconde partie si elle se rapporte à la première, parce que ça n'a plus aucun rapport. Alors, nous sommes en pleine période électorale et le président de la République était hier soir à la télévision. Un certain nombre d'auditeurs ont dû l'écouter. Pas moi, parce que c'est un président qui ne m'intéresse pas du tout. J'avais mieux à faire, donc je travaillais. Donc j'ai lu un peu la presse ce matin, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est, je trouve que ça mérite la bravitude de Ségolène Royal. C'est Nicolas Sarkozy, dont chacun sait que c'est un fin lettré. Un amateur,
Madame de Lafayette.
Amateur d'ouvrages philosophiques et de films qui sont présentés uniquement dans les salles germano-pratines, comme on a l'habitude de dire, depuis qu'il a épousé une mannequin. Donc, il a fait une superbe sortie à propos du, je ne sais pas si on a le droit de dire à l'antenne, le yacht. Le yacht.
Yacht.
On va dire le bateau.
Le yacht. Bon, un yacht, dit-on en français.
Le navire du milliardaire Vincent Bolloré,
semble-t-il.
Bien sûr.
Et donc,
sa sœur.
Les journaux ont dit qu'il avait fait son mea culpa. Alors lui a dit qu'il avait fait, comme il ne doit pas parler latin, enfin c'est une évidence, il a dit qu'il a commis une erreur et ensuite il a eu un mot que je trouve absolument superbe. Je n'avais pas impacté le poids du symbole. Donc je me suis dit que comme on avait Jeanne Spitz, directrice de Présent ici, qui est une fine grande lettrée, Il va falloir m'expliquer ce que c'est. Je n'avais pas impacté le poids du symbole.
Écoutez, je crois qu'aucun de nous ici n'a jamais impacté le poids du symbole. Et c'est regrettable. Il faudrait peut-être s'y mettre.
Non, mais c'est pas comme vous êtes un peu... Vous êtes polyglotte, quand même.
Enfin, oui, mais...
Alors, est-ce que c'est un rapport avec le... Il y a un mot anglais un peu
Je pense... Non, je pense que c'est plutôt un parler de banlieue, tout simplement. Ou qui se rapporte à capter. J'ai capté le message et de là on arrive très vite.
Marketing,
j'ai
impacté plutôt, hein. Ça fait très marketing.
Oui, j'ai
pas dire marketing.
Très publicité.
Marketing.
Force de vente.
Voilà, force de vente.
Oui. Bon.
Je sais pas, vous avez déjà utilisé impacté dans Rivarol?
Mais enfin, il a surtout insisté sur le fait que son couple battait de l'aile et que son ami Vincent Bolloré lui avait proposé justement de passer quelques jours sur ce bateau pour essayer d'arranger les choses, ce qui n'a pas été le cas manifestement.
Et moi, si je peux lui donner un conseil, s'il veut que ça se passe plutôt bien avec la femme qu'il a en ce moment, il ferait mieux de ne pas inviter Rachida Dati dans ses meetings et de lui donner la vedette.
Hein. Oui. Ça risquerait d'impacter le poids du symbole grave.
Voilà. Et voilà. On peut même dire le sexe symbole, d'ailleurs, là, je crois.
Mais je fais parfois des infidélités à Radio Courtoisie. J'écoute une radio, je dirais pas concurrente, ni amie, encore moins. Je ne la citerai pas. Mais cette radio proposait, je crois, je ne sais quelle activité liée à la fondation Nicolas Sarkozy, Carla Bruni. Il y a une fondation.
Il y a une fondation Carla Bruni
seulement, oui.
Il n'y a pas Nicolas Sarkozy.
Pour les petits enfants,
oui, pardon, d'accord.
Contre l'illettrisme et d'autres
voilà,
malheurs.
La fondation Carla Bruni Sarkozy, pardon, excusez-moi, tout à fait.
Enfin, c'est essentiellement pour les. Puis elle a sa fondation pour les.
Mais effectivement, il a tout intérêt à la mettre en avant, oui.
Voilà. Enfin, j'ai noté quand même, je n'avais pas impacté le point du symbole. C'est très révélateur qu'aucun journaliste n'ait relevé et lui ait demandé de traduire. D'ailleurs, je pense qu'il aurait même été incapable de traduire ce qu'il venait de dire.
Le problème, c'est que là, il n'avait personne pour lui écrire son discours. Je pense que c'est ça.
Oui, il y a une autre citation de lui qui prouve effectivement une syntaxe assez défaillante à propos de la promesse, de la non-promesse sur le référendum au sujet du traité européen de discipline budgétaire. Il a dit, je cite, « S'agissant d'un traité avec 200 articles, je ne vois pas la question claire qu'il y aurait. » C'est une syntaxe un peu biscornue.
Oui, en plus, c'était un mensonge parce qu'il y en a 16 d'articles.
En tout cas, c'est beaucoup moins, je veux dire, que les 448 articles qui ont été soumis à la sagacité des Français.
Voilà, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont... Est-ce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont regardé cette émission?
Moi, je l'ai regardé en entier, 3h15.
Moi, ce que j'ai trouvé formidable,
c'est que
on prend le Figaro de ce matin. Alors, il y a climat de tension pour le débat avec Laurent Fabius, effectivement. Je crois qu'effectivement, Nicolas Sarkozy a un peu mouché.
Il a dominé. Mais de toute façon, Laurent Fabius est un très mauvais débatteur. Parce que j'ai souvenance qu'en 1985, alors qu'il était premier ministre de François Mitterrand, il avait rencontré Jacques Chirac. Or, on sait que Jacques Chirac est un débatteur piètre et un piètre orateur. Et néanmoins, Chirac l'avait emporté parce que Fabius était montré particulièrement arrogant, suffisant, ce qu'il est fondamentalement. Et donc, il ne supporte pas la contradiction. Peut-être que le milieu dont il est issu, il n'a pas l'habitude d'être confronté à des contrariétés, à des contradictions.
Il est lesté de quelques dizaines de millions d'euros à la suite de la vente du magasin d'antiquités de son père qui était tenu par son frère.
Et comme Sarkozy,
c'était une des plus belles ventes de l'année. Donc,
et comme Sarkozy n'est pas mauvais dans cet exercice, je pense effectivement qu'il l'a emporté.
Oui, mais Laurent Fabius avait été très bon, par exemple, contre Alain Juppé, enfin, ou avait été meilleur, c'est-à-dire qu'Alain Juppé était encore plus lamentable.
Alain Juppé est très mauvais également dans ce domaine-là. Hein. Alors, mais il a rappelé notamment les gentillesses qu'il avait dites sur François Hollande, hein. Non seulement Fraise des Bois, mais le fait qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il n'avait pas d'expérience gouvernementale. Et ça, je pense que ça fait mouche.
Une fraise des bois peut-il cacher un éléphant? Peut-elle cacher un éléphant?
Certainement, puisqu'on n'a jamais vu d'éléphant caché derrière, donc c'est que c'était très très bien caché.
Enfin, il y a un nouveau surnom qui court d'ailleurs sur François Hollande.
C'est, en plus de Flamby?
En plus de Flamby, c'est Guimauve le Conquérant.
C'est pas mal. Voilà.
Donc c'est en train de se diffuser actuellement. Alors, justement, sur cette histoire de. Donc le Figaro qui est vraiment. Qui fait tout. Enfin, qui fait. C'est le journal officiel de la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc dit qu'il avait durci son ton, etc. Mais enfin, moi, il m'a semblé que sur le fond, c'était pas évident, puisqu'il a expliqué, donc je le cite là, qu'il ne souhaitait pas remettre en cause la générosité des Français à l'égard des étrangers en matière de santé. C'est l'honneur de la France. Un étranger qui arrivera en France a le droit d'être soigné. Alors, il n'est pas question d'immigrés délinquants, donc, puisque un immigré clandestin est un immigré délinquant, puisque c'est un délit de rentrer en France sans en avoir l'autorisation. Donc, il décide qu'on va soigner les immigrés délinquants. Et alors, c'est absolument extraordinaire, et c'est toujours les mêmes fausses recettes de Nicolas Sarkozy qui jouent toujours sur l'évidence. Donc, d'une part, il a expliqué qu'il allait maintenir la couverture maladie universelle, donc qui est accessible à toute personne qui réside sur le territoire national depuis plus de 3 mois. Alors, je rappelle quand même que ça coûte la bagatelle de 6 milliards d'euros par an, qui ne reviendrait pas sur l'aide médicale d'État qui coûte environ 1 milliard d'euros entièrement à la charge de l'État, donc des contribuables français, parce que vous comprenez que ce n'est pas l'État qui paie, c'est les contribuables derrière. Et donc, c'est exclusivement destiné, l'AME, aide médicale d'État, est réservée aux immigrés clandestins. Et donc, grande sortie de Nicolas Sarkozy, on les soigne, vous avez dû l'entendre, Jérôme Bourbon, on les soigne et ensuite, on les renverra chez
eux. C'est ce qu'il a dit.
Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que si vous avez un immigré clandestin qui arrive, qui est atteint, par exemple, du sida ou du cancer, on va le garder pendant jusqu'à ce qu'il meure, puisqu'il ne pourra pas se soigner, par exemple, s'il vient des pays subsahariens. Et de toute façon, ce sont des maladies qui sont jamais... c'est un mal dont on est infecté, dont on n'est jamais guéri. Donc l'histoire de Nicolas Sarkozy expliquant on les soigne et ensuite on les renverra chez eux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, c'est une aimable plaisanterie, Jean Bourbon.
Non, c'est certain, mais on constate que plus l'immigration est massive dans notre pays, plus le processus de substitution de population avance, plus les partis de droite reculent sur le programme relatif à l'immigration. Moi, je me rappelle le RPR il y a 20 ans, rappelez-vous, à Villepinte, proposait l'immigration zéro. Non seulement je repasse quoi, mais c'était le programme du RPR, et la plateforme RPR-UDF de 86 était même beaucoup plus restrictive que ne l'est le programme actuellement de Sarkozy. Hein. Et c'est ça qui est frappant de constater, c'est que plus la situation s'aggrave, plus les partis de droite, quels qu'ils soient d'ailleurs, reculent sur ce plan. Hein. Puisque même le Front National qui proposait l'inversion des flux migratoires, c'est-à-dire le rapatriement progressif des immigrés du tiers-monde chez eux, maintenant propose 10 000 immigrés de plus par an. Alors évidemment, c'est mieux que l'UMP ou que le PS, mais c'est quand même très insatisfaisant, disons.
Et enfin, c'est pas recul. Tout à fait ça, mais enfin...
Bon, en fait, je constate quand même qu'il y a quand même un recul des différents partis. Alors s'agissant effectivement de Sarkozy, effectivement, il y a quand même une droitisation apparente par certaines formules, certaines expressions, quelques propositions, puis je crois qu'il a proposé de réduire le nombre d'immigrés légaux chaque année en France de 200 000 à 100 000, le diviser par deux, enfin, c'est encore 100 000 de trop, évidemment, ce qui suffit à la gauche, évidemment, pour parler d'extrême droitisation de Sarkozy, mais ce dont il profite, parce que c'est un jeu de rôle entre la droite et la gauche, plus la gauche proteste, plus un certain nombre d'électeurs se disent ça prouve que finalement il n'est pas si mal que ça, et moyennant quoi, il peut glaner, du moins l'espère-t-il, une certaine popularité.
Jeanne Smith, directrice de Présent.
Alors, je vous avouerai que comme vous, Emmanuel Ratier, j'ai travaillé hier soir, je n'ai pas regardé Sarkozy, je suis d'accord...
À Présent, on travaille la nuit.
Moi, je travaille très souvent le soir, bien évidemment. Nous sommes un quotidien du matin. Du soir, pardon. Donc, nous travaillons soir et matin. Sur Sarkozy, ce qui m'intéresse quand même dans cette histoire, c'est que, pour lui, la stratégie de la séduction à droite, c'est ce qui lui semble gagnant. Et je trouve ça intéressant pour la France. C'est peut-être là aussi un signe d'espoir, non pas dans le fait qu'il accomplira des promesses, nous n'y croyons évidemment pas du tout, mais dans le fait qu'il y a peut-être un sursaut national quelque part, oui, c'en est certainement un signe.
Xavier, Raymond.
Alors moi, je ne travaillais pas hier soir, mais je n'ai tout de même pas regardé notre président, parce que j'avoue que ça m'intéresse très peu, étant donné qu'à l'heure actuelle, les candidats, d'ailleurs que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, chaque jour quasiment font des nouvelles propositions, des nouvelles sorties. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a quand même eu un certain nombre d'années de pouvoir pour avoir toutes ces bonnes idées qu'il a juste maintenant. Et on sait très bien que, comme d'habitude, ça n'aboutira à rien. Donc on assiste à une surenchère. On va taxer à 75% les hauts salaires d'Ilin, l'autre.
Enfin, ça n'est pas ça.
On va limiter. Mais de toute façon, ça n'a
c'est
aucune importance.
Puisque crée une tranche supérieure.
Puisque rien ne sera fait comme d'habitude, et c'est une nouvelle fois une vaste fumisterie. Il y a juste un aspect qui me paraît un peu inquiétant dans la façon dont pour le camp national, dans la façon dont se développe la campagne, c'est qu'on est vraiment en train d'assister à une bipolarisation du débat. On laisse les petits candidats ou ceux qu'on estime être les petits candidats débattre entre eux, et on met vraiment systématiquement en avant l'opposition et le duel François Hollande comme si c'était déjà réglé. Et on voit d'ailleurs que notamment Marine Le Pen a tendance un peu à reculer dans les sondages du fait en partie de cette bipolarisation, puisqu'on essaie de la ranger du côté de petits candidats, comme on l'a vu lors de son débat avec Jean-Luc Mélenchon.
Enfin, on en avait parlé donc aux deux dernières émissions. Pour moi, c'est une manipulation totale, puisque je le répète, ce que j'ai répété déjà, enfin ce que j'ai dit déjà à la dernière émission, j'ai encore eu des renseignements lundi, en sortie brute de sondage, Marine Le Pen est actuellement à égalité avec Nicolas Sarkozy. C'est un moustache complet depuis le début de cette histoire. Il y a un certain nombre d'articles qui sont sortis, il y en a des nouveaux, j'en ai cité dans mon bulletin fais des documents, etc. Les sondeurs estiment qu'aujourd'hui, il est plus facile de dire qu'on vote pour Marine Le Pen que pour Nicolas Sarkozy, ce qui est quand même une aberration totale. Donc, on nous explique que Marine Le Pen, qui sort en gros à 21 actuellement, on la ramène à 16-17, et Nicolas Sarkozy, on le pousse à 27-28. Je crois que le redressement qui est effectué depuis janvier est un véritable scandale, et je ne comprends pas comment, pourquoi... Il y a peut-être certaines raisons, mais comment ça se fait que le Front National n'ait pas réussi à avoir les sorties brutes de sondage, parce que ça montrerait d'évidence aux électeurs qu'il y a un tripatouillage absolument monstrueux. Il suffit de regarder, de prendre le camembert complet et de faire des parts, vous vous rendrez parfaitement compte, quand vous tenez compte des différents candidats, en les pondérant au minimum, vous vous rendrez compte qu'il est absolument impossible que Nicolas Sarkozy soit actuellement à 27-28%. C'est strictement impossible. Il est absolument pas. Il est beaucoup plus bas. Et moi, alors il y aura peut-être des changements d'ici un peu moins de 2 mois. Donc on dira à ce moment-là que Manon Ratier s'est trompé. Je dis qu'à la date d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 15 à 20% d'électeurs qui se déterminent dans les 4 derniers jours de l'élection. Mais actuellement, Nicolas Sarkozy est très très bas. Et en fait, c'est un combat à trois. Marine Le Pen est toujours parfaitement.
Mais c'est ce que les médias essaient de ne pas de masquer et pour décourager les gens de voter Marine en rejouant la carte de cette fumisterie qui est le vote soi-disant utile.
Mais exactement comme Marine Le Pen a expliqué parfaitement à la télévision qu'elle n'avait pas ses signatures. Effectivement, elle n'a pas ses signatures. Et pendant ce temps-là, les médias, les journalistes, les hommes politiques continuent à dire mais non, c'est comme son père. Or, moi, ayant suivi d'assez près les précédentes campagnes de Jean-Marie Le Pen depuis 1988. À chaque fois, il avait un mal absolument fou à obtenir ses signatures. Vous le savez,
Jeanne
Smith à présent. Et c'était toujours extrêmement ric-rac.
Mais on a toujours su aussi qu'il fallait que quelqu'un soit d'accord pour qu'il les ait. C'est-à-dire que c'est décidé par Sarkozy.
Je ne sais pas.
Forcément.
Je n'en suis pas sûr.
Yves Daoudal, qui a suivi ça de très près, l'écrit très clairement sur son blog. Il a participé à la chasse aux signatures la dernière fois, et pour lui, c'était une évidence qu'il fallait un feu vert quelque part.
Ce qui est certain, c'est que ce que j'ai écrit dans ma lettre, à partir d'un certain nombre d'éléments que j'avais eus, dont j'ai parlé la dernière fois, c'est que, d'évidence, l'objectif est exactement celui qui a été décrit par Xavier Aymon, c'est-à-dire de faire artificiellement baisser la candidate du Front National, et que si elle est suffisamment basse, on pourra lui donner ses signatures, puisqu'effectivement, comme vous le disiez, Jasmine, Nicolas Sarkozy fait une campagne très à droite, même si c'est purement une campagne verbale. Et son objectif est de récupérer, évidemment, il suffit, comme je disais, de reprendre le camembert, on voit très bien que s'il ne récupère pas au minimum la moitié des voix du Front National, il est évidemment battu. Alors, je crois qu'il y a un sujet, j'ai vu que vous l'aviez abordé, c'est un sujet un peu récurrent, dans Rivarol, moi j'en parle de temps en temps, c'est il y a quand même toute cette polémique, enfin cette polémique, ce débat sur la viande halal, qui en fait a été lancé par Marine Le Pen, et qui...
À la suite d'une émission...
Au début, il avait été indiqué qu'il y avait François Fillon, il y avait Nicolas Sarkozy qui disait « ce débat n'a pas lieu d'être », etc. Puis finalement, ils s'y sont tous mis.
Et ils se sont pliés, en plus. C'est assez intéressant de constater que Sarko dit après « il faut étiqueter la viande halal ».
Oui, mais alors ce qui est extraordinaire, bon, c'est ces retours, je pense qu'on va en parler. Donc je voudrais juste donner deux petites citations de journaux puisque c'est pas des journaux, on peut dire, de la grande presse, que nos auditeurs n'ont sans doute pas l'occasion de lire. D'ailleurs, je dois vous dire que c'est pas franchement intéressant. Donc, c'est le dossier consacré au kasher halal de nos amis d'actualité juive, en date du 1er mars, dans lequel ils nous ont expliqué que c'est un article extraordinaire, parce que c'est en fait... Marine Le Pen a suscité, c'est le titre, hein, Marine Le Pen a suscité un débat autour de la viande issue d'abattage rituel, mais le kasher et le halal sont-ils logés à la même enseigne? Alors, en fait, dans cet article, on nous explique, donc c'est un article tout à fait... pratiquement de l'hebdomadaire officiel de la communauté juive en France. C'est un journal qui fait une centaine de pages, enfin, qui est bien beaucoup d'informations, très documentées, etc. Et donc, il nous expliquait qu'en fait, la kasherisation, la kasher, c'est absolument pas douloureux, mais le halal, c'est une autre question, quoi. Donc déjà, là, on voit... Bon, alors, c'est absolument fascinant. Je lis juste des phrases. Vous voyez, par exemple, dans le halal, il suffit d'être assermenté par une mosquée et l'encadrement n'est pas le même. Ça veut dire que les tueurs certifiés kasher, eux, ils sont entraînés, ils ont une formation, etc. Mais les autres, ce sont des rigolos, quoi. Et alors, il y a cette phrase extraordinaire. Les différences entre le kasher et le halal sont aussi dans le type de couteau utilisé et la manière de trancher la gorge de l'animal. Je ne sais pas ce que ça vous suggère, mais enfin, ça me paraît assez sidérant. Et alors, mais ce qui est très intéressant, c'est le rabbin Fison, qui est interrogé dans cet article, mais il y en a bien d'autres, et il est vétérinaire de profession, et c'est un des principaux responsables de la certification des viandes halal, des viandes, excusez-moi, kasher en France. Donc il vous explique, vous allez bien écouter, donc en fait exactement ce que disait Marine Le Pen, lorsqu'une bête est abattue par un choquette, c'est-à-dire un tueur, bénéficiant de la certification kasher du Beit Din, par exemple, à Paris. Lorsqu'une bête est abattue par un choquet, elle peut malgré tout être déclarée non kasher. Elle est donc vendue sur le marché classique. C'est la même chose pour l'arrière de la bête que nous ne consommons pas en France. Voilà. Donc là, c'est dans l'actualité juive.
Pour des raisons d'hygiène.
Oui, oui, et on vous explique que donc, il n'y a que certaines parties qui vont être consommées.
La bête macère dans ses excréments, effectivement, voilà. C'est assez
et donc,
assez
les gens qui pratiquent, qui mangent de la viande kasher, ne mangent pas toute une partie de l'animal. En fait, on vous explique que l'animal, il va être vendu dans des magasins sans que ça soit indiqué. Alors, il y a, je vous cite, Ouest France, du 27 février, c'est pas vieux, donc un article sur la viande halal en Bretagne. Donc, on interroge le président d'Interbev, Dominique Langlois, l'association interprofessionnelle du bétail et des viandes. Donc, il dit que c'est un véritable scandale, ce que dit Marine Le Pen, c'est une polémique irresponsable. Et alors, ce qui est quand même formidable, je lis, l'une des attaques frontistes porte sur la soi-disant barbarie des abattages rituels. La soi-disant barbarie, donc c'est extraordinaire. Il déroge en effet à l'obligation d'étourdir les animaux avant de les saigner. Mais les sacrificateurs agréés reçoivent une formation afin que leurs gestes techniques, on se croirait dans Seven, dans Le silence des agneaux, avec le docteur Hannibal Lecter, n'est-ce pas ? Avec leurs gestes techniques de section des carotides, de la trachée et de l'œsophage, soient correctement pratiqués. Voilà.
Ça n'empêche pas l'animal de souffrir
pendant un quart d'heure. Ah non, mais de toute façon, il y en a au moins 4 ou 5% qui restent vivants, etc. Par exemple, vous prenez le rabbin Fisbin, là, qui est vétérinaire, qui vous explique qu'en fait, la bête n'est pas inconsciente dans la kasherisation, au minimum dans 3 ou 4%, et que dans le halal, c'est beaucoup plus.
Alors, aux Pays-Bas, c'est assez drôle, on a cherché à interdire purement et simplement tout abattage rituel, avec les conséquences qu'on peut imaginer chez les différentes communautés juives et musulmanes. Finalement, cette décision n'a pas été appliquée, mais c'était quand même tout à fait en chantier. Mais je mets ça en parallèle avec ce que je viens de lire hier soir, justement, pendant que Sarkozy parlait à la télévision. J'ai lu les projets de directive pour l'euthanasie. Comment bien mener une euthanasie pour que la personne ne souffre pas? Enfin, il y a des tas de trucs.
Et... il faut trancher dans la carotide rapidement.
Non, non, il faut bien piquer la bonne veine. Enfin, il y a des tas de recommandations, y compris celle qui m'a fait carrément hurler de rire. Il faut éteindre son portable pendant qu'on pratique une euthanasie parce qu'il faudrait quand même pas être dérangé. Alors peut-être que ça...
On pourrait peut-être mettre le Requiem de Mazar en musique.
Ça serait une bonne idée.
Alors, vous voulez intervenir dessus, mais ce qui est extraordinaire quand même, c'est les visites que ça a suscité. Tout ça parce que, ah oui, j'avais oublié, François Fillon était juste intervenu. Il avait parlé, alors bon, il connaît pas grand-chose à la question, parce qu'il prétend qu'à l'origine, c'était des questions d'hygiène qui ont créé ces pratiques rituelles, alors qu'on sait très bien que ça n'a strictement rien à voir... avec une question d'hygiène. Et donc, François Fillon avait estimé qu'il y avait des traditions ancestrales qui ne correspondent plus à grand-chose. Alors, il n'en a pas fallu plus pour que le président de la République reçoive le président du consistoire, demain, je crois que c'est le président du Conseil français du culte musulman, etc., etc. Alors, pour signer, puisque je suis en pleine forme ce soir, donc c'est l'éditorial de La Croix d'aujourd'hui, au pays de la laïcité, je dis bien la croix, hein, au pays de la laïcité, les religions n'ont pas disparu de l'espace public. Ces jours-ci, semblent l'avoir cherché, elles occupent même le devant de la scène. Lundi, sur Europe 1, François Fillon a eu des propos malheureux sur les traditions ancestrales qui ne correspondent pas à grand-chose, etc. Et ils disent que c'est absolument scandaleux et qu'il faut donc que l'Église catholique n'a pas l'intention de se pencher sur les souffrances des animaux.
Mais sur la question du halal, je pense qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a en effet des questions religieuses, mais il y a surtout des questions économiques. Si un certain nombre d'abattoirs se mettent à faire du halal exclusif, c'est parce que ça leur coûte moins cher que d'avoir plusieurs filières différentes d'abattage. L'islamisation, très bien, mais il y a des intérêts économiques derrière tout ça. Ce ne sont pas des musulmans qui mettent en vente des produits halal dans les supermarchés. Il y a très peu de musulmans qui dirigent les grandes compagnies de supermarchés à l'heure actuelle. Donc il y a c'est l'intérêt économique surtout. C'est une soumission aussi
à l'actionnaire aussi.
Peut-être, oui, vous avez raison. Mais en tout cas, c'est aussi un élément. C'est-à-dire que ce sont des bons Français, comme on dit, qui participent à cette mise en place et à cette progression exponentielle du halal en France. Et il faut le garder à l'esprit parce que c'est aussi parce que l'appât du gain est un moteur de plus en plus important et que les gens sont prêts à faire quoi que ce soit, à peu près tout, pour gagner un peu plus d'argent, y compris du halal.
On sait aujourd'hui qu'il y a au même... Bon, c'était pas tout à fait ce qu'avait dit Marine Le Pen, mais qui parlait plus spécifiquement des abattoirs en Île-de-France. Grosso modo, avec les débats qui ont eu lieu, les interrogations, les réponses qui ont été données par les organismes professionnels, plus de la moitié actuellement de la viande consommée en France est soit halal, soit cachère. Plus de la moitié. Bon, or, je suis désolé, il n'y a pas la moitié des Français qui consomment halal ou cachère, et donc c'est un produit qu'on leur impose.
Et c'est un impôt, c'est ça le problème.
Non, mais en plus, c'est totalement antagonique. Il y a un antagoniste, enfin, c'est un délire pour la qualité de la viande, enfin, etc.
Ça se
retrouve en pleine de toxines. Enfin,
c'est une des conséquences désastreuses parmi d'autres de l'immigration massive. Hein. Ça passe par la construction des mosquées, par le foulard islamique. Et il est évident que ça participe d'une islamisation en douceur de notre pays. Et le jour arrivera où cette islamisation, elle se fera d'ailleurs de manière pacifique, parce que c'est une question de nombre, de puissance, d'influence, et il est évident que, sans qu'on s'en soit forcément aperçu, c'est la technique du voleur chinois, où l'on déplace de manière subreptice un objet jusqu'au jour où il a complètement disparu. Là, c'est un petit peu pareil, on se retrouvera avec un pays islamique, musulman, d'ici quelques années. C'est mécanique, par le biais de la révolution démographique, et puis comme, de surcroît, la gauche qui très vraisemblablement va l'emporter à la présidentielle ou législative, va donner très, très certainement dans les mois qui viennent le droit de vote aux étrangers, d'abord aux élections locales, puis dans un deuxième temps à toutes les élections, parce qu'on dira c'est de la discrimination.
Et le droit à être candidat, surtout.
Bien sûr, être éligible, il est évident que ce phénomène ne pourra que s'accélérer.
Il suffit d'observer le Royaume-Uni, où on a un peu ce phénomène d'islamisation de certains conseils municipaux, et d'installations, de tribunaux de charia, etc., dans certains quartiers. C'est tout à fait admis.
Alors, ce qu'on peut souligner aussi, c'est quand même l'extraordinaire silence des personnes, théoriquement, qui devraient réagir, qui sont les Verts, les pseudo-écologistes français. Donc, c'est parce que la déclaration d'Eva Joly est extraordinaire, parce que elle parle d'une instrumentalisation trotskiste scandaleuse et totale. Voilà. En réduisant la souffrance animale à la seule technique de l'abattage. Voilà. Et alors, elle explique, il faut remettre l'animal au centre du débat.
Ah, ça fait penser aux voilà. recommandations de Mérieux.
Voilà. Le modèle productiviste a contribué à occulter l'animal comme sujet et à le traiter de facto comme objet. Et je crois qu'il va y avoir des transgenres, à mon avis, bientôt.
Ah, en Suisse,
chez les vaches et chez les poulets. Oui. Parce qu'on va faire des gender studies, n'est-ce pas, pour les, pour les animaux. Le parce que c'est, oui, non, non, mais. Oui. Les études de genre, c'est incompréhensible, oui. ça veut rien
en, dire. En Suisse, on n'achète pas un poisson rouge tout seul, c'est interdit par la loi. Il faut en avoir deux pour qu'ils aient un ami.
Ou une amie, éventuellement, peut-être.
Ça, on ne sait pas trop avec les poissons.
Alors, Henri, nous avons beaucoup de messages.
Oui, beaucoup, donc je ne pourrais pas tous les lire. J'en ai quelques-uns, un certain nombre. Dans le numéro de février de Que choisir, il y a un article de 3 pages sur l'abattage rituel. Un vétérinaire explique... Page 44, précise cet auditeur, le risque de contamination dû à ce mode d'abattage. Un auditeur, à force d'attaquer Sarkozy, même à ce que vous dites, excusez-moi, j'ai du mal à lire, ne craignez-vous pas de faire élire Hollande, ce qui serait pire que ce que
faire élire
Hollande.
Ah oui.
Au cas où Marine Le Pen n'aurait pas ses 500 signatures, dit cet autre auditeur, est-ce que l'élection présidentielle pourrait être invalidée et à la demande de qui ?
Il n'y a absolument aucune chance.
Quelle est sa signature ?
Non, il n'y a absolument aucune chance que l'élection soit invalidée.
Bon,
son candidat à la présidence de la République, les gens qui ont 500 signatures certifiées. Ce n'est pas compliqué. Pour le moment, Marine Le Pen ne les a pas. Je pense que ça va être très ric-rac. Elle les aura peut-être. Mais pour le moment, elle ne les a pas. Elle ne les a toujours pas. Ce sera très, très difficile. Il suffit que, par exemple, il décide de lui tendre un piège avec 30 maires qui décident de signer et puis qui, au dernier moment, ne signent pas. Vous savez, le cabinet noir qui fonctionne dans les coulisses, dans les bas-fonds de l'Élysée, c'est une véritable réalité. Enfin, on s'en est rendu compte quand même avec toutes les affaires de la DCRI, etc. Toutes ces affaires d'espionnage, de... Bon.
Mais François Hollande a quand même intérêt... fondamentalement à ce qu'elle soit présente.
Mais François Hollande, il est pour les droits de l'homme. Donc c'est quelqu'un qui est moral. Je suis désolé avec vous, mais Lionel Jospin, c'était un militant politique. Lionel Jospin, bon, il avait fait l'ENA, certes, mais d'abord, il était chez les Lambertistes. Bon, il était en mission au Parti Socialiste. Exactement comme Mitterrand, qui venait de de l'Action française, de la cagoule, etc., était quelqu'un qui pouvait donner un coup de pouce. Il l'a donné effectivement à Jean-Marie Le Pen, qui lui a permis de passer à la télévision en 1983, je crois, au droit...
Des 82. Hein.
Au 82. Mmh. Bon, et puis comme Jean-Marie Le Pen était excellent, comme on le savait, bon, ben, il s'est très très bien débrouillé. Mais non, c'était pas une marionnette, mais il lui a permis d'aller à la télévision. Bon. Lionel Jospin, on l'a bien vu en 2002, c'est quelqu'un, quand il a été battu, il ne voulait pas appeler à voter pour Jacques Chirac. Et finalement, sous la pression du Parti Socialiste, il a fait un mot de 3 lignes.
Bon. Assez ambigu, d'ailleurs.
Oui. Mmh. Arlette Laguiller a dit « Jamais je n'appellerai ni à voter, ni pour l'un, ni pour l'autre ». C'est les 2 seules personnes qui ont été correctes dans la classe politique française. Lionel Jospin, François Hollande, fait partie de cette génération morale, qui n'a jamais réellement milité, et qui fait passer les droits de l'homme avant... et puis tout ce qui va avec l'égalitarisme,
ça me semble pas très moral.
Les questions sociétales, etc. Oui, ce sont pas. Mais non, mais ce sont pas des hommes politiques. Ce sont des c'est, on a oublié. C'est dommage qu'on l'ait pas repris cette fameuse photo qui avait fait la une, s'est mise sur son bond de Paris Match, où François, il y a une dizaine d'années, où François Hollande et Nicolas Sarkozy s'étaient fait prendre en photo tous les deux.
En 2005, oui.
Pour faire la même photo, on devrait la ressortir. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, comme disait Jacques Duclos. Donc véritablement, c'est évident que ça ne viendra pas de la gauche, les signatures. Ils auraient trop peur que ça se sache. La gauche est d'abord morale. Et elle est pas, c'est pour ça qu'elle n'est pas crédible.
Oui, enfin, ne parlons pas de tous les scandales.
Ils sont paralysés par un certain nombre d'incapacitants. Et donc, donner une signature au Front National, c'est strictement impossible aujourd'hui, même si ça a été envisageable à une certaine époque.
De toute façon, je vois pas pourquoi il aurait besoin de la candidature. Je parle de Hollande. Pourquoi est-ce que Hollande aurait besoin de la candidature de...
Parce que ça affaiblit fortement Sarkozy au premier tour.
Il est quasiment sûr de passer.
Sarkozy peut renverser la table, hein, sans Marine Le Pen, avec un discours très à droite. Je dirais que c'est sa seule chance, à mon avis, minime, mais c'est sa seule chance de l'emporter.
S'il annonce avant qu'il y aura des désistements de second tour avec le Front National législatif, c'est sûr qu'il sera élu. Mais c'est la seule chose qu'il peut faire. Or, il ne le fera pas, parce qu'il est soumis au diktat. Des lobbies qui n'existent pas. Alors, quelques
messages amusants sur le mot impacté, ce qui a beaucoup amusé nos auditeurs. Le mot impacté provient du mot impact utilisé à propos d'une arme ou d'un projectile. Autrement dit, un politicien, je cite cet auditeur, hein, bien sûr, un politicien tué de loin avec un fusil est impacté. Ne pas confondre avec impacté, même s'il y a des analogies. Un auditeur, les rations de combat sont tamponnées halal, en gros, sur la boîte. Apparemment, un auditeur militaire. Quel est le montant de la redevance par kilo de viande abattue halal? J'ai entendu parler, je réponds à titre personnel, de 20 à 30 centimes par kilo.
C'est quelques dizaines de centimes. Ouais,
oui. Enfin, c'est toujours un impôt absolument...
Mais il faut pas oublier qu'il y a... Mais il faut quand même oublier qu'il n'y a pas que le halal, il y a toute la viande cachère aussi. Il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, où la communauté juive a un poids plus considérable, enfin une influence plus considérable, par exemple, qu'en France, que toutes les études montrent que 92% des produits qui sont disponibles en magasin, y compris donc les boîtes de conserve, les boissons, etc., ont un petit K dans un rond, vous voyez, comme le C du copyright, ont un petit K, enfin il y a différents, vous allez sur Internet, vous regardez, qui veut dire que le produit est cachère, 92%. Alors je suis désolé, il n'y a pas de 80%, la communauté juive américaine ne représente pas 92% de la population américaine.
L'eau voilà. d'Évian est cachère, voilà. C'était dans Capital.
Voilà. Je n'en boirai plus alors. Déjà qu'il y a les accords d'Évian. Je boirais du Vichy.
Alors, il reste la Châteldon, n'est-ce pas, l'eau Louis XIV.
Bon, deux autres.
Pierre Laval, c'était
le famille de Pierre Laval.
C'est ça. Hein.
La belle famille de Pierre Laval était propriétaire de.
Bon, alors je me partagerai entre Vichy et Châteldon.
Deux autres messages sur le terme impacté, je crois, je ne vais peut-être pas les lire. Un auditeur, Jean-Marie Le Pen, n'a jamais eu plus de 8% en denier brut. Pour Marine, on n'a pas de repère, ce sera, dit cet auditeur, la surprise du chef. Pour Chirac, il a toujours fait 26%, selon les sondages, et jamais plus de 20% à l'élection. Il y en a qui sont surévalués et d'autres...
Oui, mais je pense que Sarkozy est un bien meilleur candidat que Chirac. Hein, parce que Chirac n'a jamais réussi à faire 31% des voix comme l'a fait Sarkozy en 2007. Hein, donc je pense que c'est un candidat beaucoup plus redoutable, beaucoup plus performant que Jacques Chirac. D'abord parce qu'il n'a pas ce fond radical socialiste qu'avait Jacques Chirac qui l'empêchait d'aller très à droite. Alors que Sarkozy n'a pas du tout cette gêne. D'ailleurs, il a pris Patrick Buisson, ancien rédacteur en chef de Minute, comme conseiller. Henri Guénaud...
Même pas ancien directeur de la rédaction, puisque j'ai travaillé avec lui pendant des années.
Henri Guénaud,
le jour où je ferai son portrait, ça sera
fini. Henri Guénaud qui est souverainiste. Et puis, je pense que Sarkozy a un avantage par rapport à d'autres candidats, c'est qu'il n'est pas énarque, et ça se sent. Il a été avocat, et je pense que de ce point de vue-là, il a une capacité, je pense, à parler aux gens et à les séduire, enfin du moins une partie d'entre eux, qui me paraît beaucoup plus forte que l'était Chirac, que l'était Balladur, ou que le sont la plupart des politiciens. Je pense d'ailleurs que la haine a son endroit en grande partie, parce qu'il y a une vraie haine de la gauche, hein, qui est incontestable, des médias, etc. Je pense qu'en partie, c'est quand même lié à cela. C'est qu'il est quand même peut-être un peu moins formaté, même si son bilan est assez désastreux, on est d'accord, un peu moins formaté que d'autres, quand même, malgré tout.
C'est un excellent vendeur de machines à laver, comme Jean-Pierre Raffarin.
Voilà. Oui, enfin, Raffarin est...
Il n'a pas fait l'ENA non plus. Hein.
Non, mais Raffarin était quand même, je pense, beaucoup moins performant comme orateur, comme
il
débatteur.
Il paraissait plus distant.
Alors voilà. Oui, nous avons des piles de messages. Oui, alors,
dont je ne les ai pas lus, donc je préfère peut-être les lire d'abord. Monsieur Bourbon vient de prendre la parole, donc je lis un message à son adresse. Monsieur Bourbon, peut-il arrêter de faire la campagne de Monsieur Sarkozy? Que pense Monsieur Ratier de l'attitude de journalistes, et notamment de Pascal Clark sur France Inter, la radio du service public, qui a reçu Monsieur Alliot? Monsieur Bourbon, êtes-vous de la même caste que Field, Clark, Ferrari et toute la clique des journalistes haineux?
Non, mais enfin, ça, bon,
non, mais chacun livre ses commentaires.
Voilà, on va pas,
ses commentaires.
On va pas enfin, avoir on a, assez de temps.
Je ne sache pas que Rivarol soit un journal sarkozyste. Bon, j'essaye simplement d'être objectif.
Ça resterait à démontrer.
Je crois que ça resterait à démontrer. D'ailleurs, on a eu plusieurs procès de la part du gouvernement Sarkozy, tant lorsqu'il était ministre de l'Intérieur qu'aujourd'hui en tant que président. Donc je crois que parler de connivence serait quand même quelque peu osé.
Même si vous avez eu également des procès de la part du Front National.
Oui, ça c'est autre chose. Ouais.
C'est vrai. Quand même.
C'est vrai.
Bon, alors, est-ce que vous voulez qu'on continue? Parce que je pensais qu'il y avait un... Enfin, moi, il y a un sujet, parce que comme on ne dispose pas d'un temps très, 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 très important, c'est le rejet par le Conseil constitutionnel de la loi sur le génocide arménien, qui m'a paru quand même très intéressant. Nous en avions parlé lors de la dernière émission. J'avais indiqué que je pensais que le Conseil constitutionnel le censurerait cette loi. Effectivement, il l'a censurée. Mais ce qui est tout à fait particulier en l'affaire, c'est que ce sont les motifs qui ont été fournis. Donc je lis là le communiqué du Conseil constitutionnel. En réprimant la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crime qu'il aurait lui-même reconnu et qualifié comme tel, le législateur a apporté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que, en fait, pour simplifier, c'est ce qui se dit souvent à ce micro, en particulier des historiens, c'est que c'est aux historiens d'écrire l'histoire et que l'histoire n'a pas été écrite ou décidée par le législateur. Voilà. Et en même temps, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que d'une part, on nous explique que... Monsieur Guesso, d'ailleurs, Jean-Claude Guesso, auteur de la fameuse loi de 1990, a dit ben non, que sa loi était est confirmée, que c'était une bonne chose. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que le président de la République a aussitôt demandé au gouvernement de présenter un nouveau texte sur, je dis bien, entre guillemets, le génocide arménien, puisque c'est pas ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, et que d'autre part, François Hollande a indiqué que dès qu'il serait élu, il ferait également voter un nouveau projet de loi sur cette question de la reconnaissance du génocide arménien. Et ce qui est absolument bon, fascinant, c'est que, là je la publierai normalement dans le prochain numéro, c'est que si on avait eu le nom des députés, le nom des sénateurs, on n'avait pas eu le nom des députés, la liste était restée secrète. Et enfin, elle vient d'être enfin publiée, et on se rend compte que les députés et les sénateurs qui ont contesté auprès du Conseil constitutionnel l'adoption de cette loi appartiennent aussi bien à l'UMP qu'au Parti socialiste. C'est très, je dirais, transcourant. C'est pas, pour une fois, tous les gens n'ont pas voté de la même manière. Et je dois dire que c'est assez encourageant pour la question de la liberté d'expression.
Et il y a même Robert Huss qui ne manque pas de sel, puisque c'est un ancien
ministre. Oui, c'est très, très intéressant de voir que les clivages habituels, ben, y a des gens qui disent oui, effectivement, le législateur n'a pas dicté l'histoire. Et il y a d'autres personnes qui disent oui, il faut absolument que le législateur impose, enfin, que l'histoire soit... même pas écrite par les vainqueurs.
Alors, toute la question est de savoir si ça va remettre en question la loi Guesso. Hein. Or, puisque nous avons de nouveau été condamnés, vous savez, pour un entretien avec Jean-Marie Le Pen, où il était brièvement question de l'occupation allemande en France, nous ferons un nouveau pourvoi en cassation, tant Jean-Marie Le Pen que nous-mêmes, d'ailleurs. Et ça va être l'occasion, justement, de reposer ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, hein, la QPC, à la Cour de cassation. On verra si cette fois-ci, elle transmettra la question au Conseil constitutionnel. Elle refuse à plusieurs reprises, hein, avec des arguments tout à fait fallacieux, de transmettre ce dossier. Mais là, maintenant, avec la décision toute récente du Conseil constitutionnel, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que, dans la mesure où il est présidé par le chiraquien Jean-Louis Debré, je ne suis pas sûr qu'en plus, on sait qu'il déteste Sarkozy, je ne suis pas sûr que, indépendamment des questions juridiques, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas été content de lui faire un croche-patte à quelques semaines, voilà, le présidentiel. Bon, ça, oui. C'est tout à fait secondaire, mais je pense que ça a sans doute joué. Cela dit, c'est une excellente décision de la part du Conseil constitutionnel. J'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Compte tenu de la composition très politicienne de cette Assemblée qui s'est souvent déshonorée dans le passé, notamment justement en invalidant parfois des candidats du Front National de manière tout à fait injuste, hein, ou des maires, rappelez-vous Catherine Maigret, Jean-Marie Le Chevalier, alors qu'elle avait validé les comptes de Jean Tiberi ou de Dominati ou autres. Donc cette assemblée,
ou
c'est Jacques Chirac, pire encore, vous avez raison.
Aujourd'hui,
absolument, de Chirac et de Balladur.
Qui n'aurait pas dû les valider,
oui, puisque surtout qu'il y a eu des morts d'hommes derrière tout ça, puisque quand même l'affaire Karachi qui a conduit à la mort de 11 Français, c'est quand même une des conséquences de la guerre entre Balladuriens et Chiraciens. C'est assez effrayant, on y réfléchit. Bon,
enfin, Jeanne Smith.
Oui, pour revenir sur la censure de la pénalisation de la négation des génocides reconnus par la loi française, parce que ce n'est pas seulement le génocide arménien, il se trouve qu'actuellement c'est le seul. J'ai lu très attentivement la décision du Conseil constitutionnel et du communiqué qui l'accompagne. Alors, le communiqué qui l'accompagne prend soin de dire « ceci ne peut pas concerner la loi Guesso ».
Oui, parce qu'il est tribunal que, de Nuremberg.
Parce que, après, quand on lit la décision elle-même, on voit qu'il y a une espèce de tour de passe-passe. On dit « voilà, c'est le génocide arménien est reconnu par une loi française, il n'appartient pas au législateur de reconnaître un génocide, et donc, on n'a pas le droit de tourner en rond et d'ensuite aller dire « on n'a pas le droit de le nier ». On dit, finalement, le législateur excède un petit peu son rôle. Bon, allons-y pour ça. Mais ajouter à cette réalité une contrainte pénale, ça n'est pas possible. Alors que, dit le communiqué et non la décision du Conseil, alors que la loi Guesso repose sur une décision de justice définitive. Donc je crois que la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, elle sera barrée d'emblée
non,
pour
non,
moi.
Non, pas du tout. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Les juristes sont divisés sur la question.
C'est très très bref. L'arrêt est très bref. Hein,
tout à fait.
Voilà. Et justement, ils ont bien insisté. Bon, ils évoquent vaguement ce qu'on appelle la loi Guesso avec le tribunal de Nuremberg.
Mais c'est uniquement dans le communiqué.
Mais ils disent bien quand même, enfin, c'est quand même passionnant, ils expliquent bien, par exemple, une disposition législative ayant pour objet de, entre guillemets, reconnaître un crime de génocide ne saurait en elle-même être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi. Et, bon. Et puis, d'autre part, comme vous le disiez, les juristes sont très divisés sur cette question. Par exemple, il y a Anne-Marie Le Pourrier qui est quand même, je crois, présidente ou vice-présidente des constitutionnalistes français, qui dit justement qu'ils ne se sont pas prononcés sur cette question et qu'au contraire, à chaque fois qu'il y aura un nouveau procès qui utilisera la loi Guesso, la question prioritaire de constitutionnalité pourra être à nouveau reposée. Ce qui est quand même assez intéressant.
C'est intéressant, mais il me semble que déjà les sages, entre guillemets, ont dit voilà ce que nous déciderons.
Oui, j'ai un peu la même impression que vous, effectivement. Mais enfin, on va toujours tenter.
Ce serait idiot de ne pas l'essayer.
Je veux dire que l'argumentation est très très faible. Hein. De dire, effectivement, il y a eu un tribunal qui a reconnu.
C'est très faible,
oui. Ah oui, je suis tout à fait d'accord.
Il y a beaucoup de constitutions. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, parce que ce sont des gens qui rentrent pas dans des questions politiques, hein, comme par exemple Anne-Marie Le Pourrier, mais qui disent que ça ne tient pas juridiquement et qu'eux-mêmes, je ne sais pas, seraient membres du Conseil constitutionnel. Ils diraient que c'est...
Oui, mais le problème, c'est que le Conseil constitutionnel décide. C'est lui qui établit et c'est lui qui décide d'après ce qu'il a établi. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'était ce que disait Madame le rapporteur de la loi... Valérie quelque chose, excusez-moi.
Boyer,
c'est ça. Elle a expliqué que c'était intolérable qu'il y ait deux poids et deux mesures en France, c'est-à-dire des gens avec une histoire de génocide dans leurs antécédents qui bénéficient de la protection de cette affirmation, à savoir le génocide perpétré par les nazis, et puis d'autres qui ne bénéficient pas de cette protection. Donc elle disait, là, on est dans un deux poids, deux mesures. Tout
et lorsque le point n'a pas tort, d'ailleurs.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand même l'article que Jean-Claude Guesso a publié donc, dans le Monde, où il explique qu'en fait, le titre, c'est « Il faut revenir avec un texte juridiquement rassurant ». Quand même, tout est dans l'euphémisme. En fait, il suffit de le lire, où il explique qu'en fait... Certes, sa loi, qu'il avait portée n'a pas été invalidée. Enfin, ça risque de l'être dans le futur. Et donc, il indique ce qu'il faut faire à la fin. Il faudrait, me semble-t-il, pour cela, lui donner une dimension internationale et européenne. Donc, maintenant que cette loi, je pense, y compris la loi Guesso, risque un jour d'être censurée en France, rejetée, eh bien, il va falloir la faire adopter au niveau du Parlement européen, à ce moment-là, et pourra s'imposer à l'intérieur même des pays. Voilà, c'est la nouvelle technique, c'est toujours l'internationalisme stalinien.
Juste en lien avec cette affaire, je voudrais signaler que ce soir sur France 3, il y a un film sur le génocide vendéen. Alors, la grande question posée par l'émission, c'est de savoir si c'est bien un génocide. Et bien sûr, nous sommes...
Vous l'avez vu.
Je l'ai vu. Nous sommes à la télévision d'État, donc la conclusion est faiblarde. Le débat de la fin est surréaliste. Mais en attendant, il y a une multitude d'images et de commentaires d'historiens, les présidents d'associations vendéennes, de l'association Schwann, sont interviewés. On a accès aux archives avec toutes les découvertes de Reynald Secher sur la manière dont le génocide vendéen ou l'extermination des Vendéens a été décidée à Paris par le comité de salut public, par Lazare Carnot qui est au Panthéon, par Robespierre qui a son lycée à Lille et puis aussi son école maternelle, là où il y a eu la lecture de la lettre sur le viol d'une petite africaine. Vous avez entendu parler de cette affaire. À Morsang-sur-Orge, où il y a une école de Robespierre. Ce document qui sera diffusé ce soir à 23h par France 3, eh bien, il montre tellement de choses qu'il y a une vérité qui vous explose à la face, même si on a l'impression qu'il y a une certaine nervosité dans les commentaires pour essayer de montrer que non, ça n'est quand même pas la révolution qui est responsable de tout cela. Et on conclut sur l'idée que non, la révolution n'est pas un bloc.
Henri,
beaucoup de belles choses à voir.
Henri, vous aviez quelques... Beaucoup,
alors, énormément,
on a beaucoup
là, je croule sous le message. Ouais.
Donc vous en sélectionnez deux ou trois.
Alors ça va être un choix tout à fait aléatoire.
Voilà. Alors allez-y.
Alors, si vous m'en donnez deux ou trois...
Ou je vous donne, je vous laisse 3 minutes pour trier.
Ah ben, 3 minutes,
voilà.
Non, je peux les donner.
Alors allez-y,
C'est pas possible, il y en a une quarantaine.
Eh ben, lisez-les en 4.
Voilà, oulala. Bon, Marine Le Pen monte au créneau... excusez-moi, peut-être pas ici. Comment se fait-il que nous n'entendions pas sur le problème de la viande halal, les défenseurs des animaux? Ben, je réponds tout de suite si. Fondation Brigitte Bardot est quand même très sur le créneau concernant ça.
C'est un peu la seule.
Et il y a l'œuvre d'assistance aux animaux d'abattoir, etc., qui interviennent. Mais ce sont des gens qui sont des gens sérieux, donc ce ne sont pas des gens qui sont susceptibles d'amuser à la télévision, parce que ce qu'ils racontent est atroce. Les meilleurs films qu'on peut voir sur les abattages rituels, il faut aller sur Internet pour les voir, et c'est... vous avez envie de devenir végétarien après, quoi.
Ceci dit, l'abattage industriel en lui-même pose un certain nombre de problèmes en la matière. On ne faudrait pas non plus oublier l'industrialisation de l'abattage.
Ah, Xavier Mand, notre écolo de service.
C'est déjà quand même quelque chose d'assez atroce, écoutez, qui peut rendre végétarien sans que ce soit halal.
Je vais peut-être rebondir sur l'intervention de notre ami Xavier pour citer cet message d'une auditrice. Profitons du carême pour s'habituer à ne plus manger de viande.
Bonne idée.
Une autre auditrice, le rabbin surveille l'abattage pour l'abattage cachère et l'imam pour l'abattage halal.
Oui, enfin, moi je veux bien, mais sur les films qu'on voit, il y a uniquement un tueur assermenté et on voit pas ni d'imam ni de rabbin sur la plupart des films. Les films documentaires, il faut savoir qu'en général, c'est une question, on l'a dit, de gros sous. L'industriel verse une certaine somme, il y a une visite une ou deux fois, et puis c'est réglé après. Imaginez les formules qu'il faut dire à chaque fois qu'on abat un poulet, je veux dire, ils en abattraient 200 à l'heure, alors qu'ils doivent en abattre 700 ou 800. Vous comprenez ?
Un auditeur, on nous enfume avec ces histoires d'abattage rituel alors que notre pays est au bord d'une faillite économique sans précédent.
Oui, mais nous en parlons souvent ici, là. Bon, je ne peux pas dire que j'ai pris un sujet. Enfin, on est en plein dans l'actualité parce que c'est un sujet dont personne ne voulait parler. J'ai trouvé, un peu comme Jean-Marie Le Pen avait mis pendant des années les pieds dans le plat avec les questions d'immigration, Marine Le Pen a réussi quand même cet exploit, alors qu'elle a été injuriée, etc., de placer quand même la question... de savoir ce qu'on mange, parce qu'on vous dit la traçabilité depuis la vache folle, depuis les trucs, on peut savoir d'où ça vient, mais vous pouvez pas savoir si cette bête, elle a été sacrifiée, en plus, au nom d'une religion. Parce qu'il y a des gens, ils ont peut-être pas envie que leur viande soit, ni arabe, pour être très clair, ni juive,
ni musulman,
excusez-moi, exact, ni musulman, ni juif, puisque les gens, ils n'ont pas envie, mais il n'y a pas de viande catholique, vous comprenez, il n'y a pas de viande protestante, il n'y a pas de viande bouddhiste, enfin bon, les gens, ils ont peut-être envie de manger de la viande, et ça paraîtrait quand même assez normal. En général, on peut déterminer la provenance, le pays d'où, la région d'où elle vient, pratiquement, on peut repérer la bête, etc., mais quand on vous parle pour savoir comment elle a été tuée, vous ne pouvez pas le savoir.
Mais d'ailleurs, je crois que c'est les Sikhs qui ont interdiction formelle de manger de la viande halal, et qui peuvent donc en manger contre leur sans le savoir, donc même interne aux minorités, ça pose des problèmes.
Cela dit, bon, c'est bien joli de parler de la souffrance des animaux, et on a raison, tout à fait, c'est tout à fait légitime, mais je veux dire, on ne parle pas du tout des avortements de masse qui me paraissent infiniment plus graves.
Oui,
aucun candidat n'en parlera de ça. Pas... D'ailleurs, c'est une innovation, je dirais, dans cette élection, c'est qu'aucun candidat ne propose l'abrogation de la loi Veil, ou de la législation actuelle sur l'avortement.
Au-delà
et ça, à l'exception de Karl Lang, mais qui malheureusement, qu'on interviewe d'ailleurs longuement cette semaine dans Rivarol, mais qui malheureusement a peu de chance d'avoir les signatures. Et ça aussi, c'est très agréable. Là encore, je parlais du principe de cliquet qui fait que toutes les réformes que la gauche ou que la fausse droite ont mises en œuvre, eh ben on ne revient jamais dessus. Malheureusement, on cède par pan entier, même dans le candidat national, de plus en plus. Donc je le disais sur l'immigration, je le dis sur l'avortement, on pourrait multiplier les exemples. Moi, je trouve ça profondément triste.
Je ne crois pas qu'il y ait une évolution très importante du Front National sur la question de l'immigration.
Dans le programme, oui, dans le programme. Oui. Et oui, beaucoup de cadres étaient sincèrement contre l'avortement. Tel n'est plus le cas aujourd'hui.
Je pense que le programme du Front National est peut-être plus réaliste qu'avant. Voilà. Donc il faut un certain temps pour diminuer. Parce que
je dirais plus médiatiquement compatible et plus politiquement correct.
Moi, je pense qu'il est plus applicable. Parce que si on est sûr que si on veut appliquer un programme déjà à 100% avec lequel tout le monde est d'accord, personne ne sera d'accord.
Vous savez,
avec...
la sortie du franc, elle est déjà très anxiogène, voilà, pour les gens. Hein, vous savez, revenir au franc, très anxiogène. Donc vous savez, à ce compte-là, on abandonne tout. Quoi. On abandonne l'idée du retour au franc, on abandonne la politique familiale, on abandonne tout. Si on veut plaire aux médias...
Comme je l'ai expliqué. Non, c'est pas plaire aux médias, comme je l'ai expliqué par exemple dans mon bulletin, à partir d'un certain nombre de sondages qui sont effectués, qui ne sont pas des sondages politiques. Par exemple, la sortie du franc est le seul thème avec lequel une majorité de l'électorat de Marine Le Pen est hostile.
Oui, d'ailleurs, je comprends mal, dire qu'elle qui est dans une stratégie de dédiabolisation, de normalisation, je comprends assez mal de son point de vue à elle, hein, j'entends. Sur le fond, d'un point de vue nationaliste, qu'on soit pour le retour au franc, quoi de plus logique. Mais je veux dire, de sa part à elle, je comprends pas qu'elle n'ait pas vu, ou que ses conseillers n'aient pas vu, que c'était anxiogène et que ça pouvait la faire baisser dans les sondages.
Il faudrait peut-être mieux revenir au franc ancien plutôt qu'au franc nouveau.
Au franc Pinet, donc. Avant Pinet, pardon.
Voilà. Alors, parce qu'il ne va pas... Bon, il nous reste quelques minutes, une poignée de minutes.
On œuvrait pour les dizaines de messages qui restent. Ouais.
Alors, il y avait toutes sortes de sujets à aborder.
Et leurs auteurs, bien sûr.
Mais il y en a un sur lequel j'aimerais revenir. C'est quand même, puisqu'on ne parlait pas d'économie et qu'on nous parlait de la crise, c'est toujours la crise grecque persistante dont on a parlé au cours d'un certain nombre d'émissions précédemment. Mais je vais juste vous proposer quelques réflexions sur l'entretien qu'a accordé Michel Rocard à Libération du 2 mars. C'est quand même un européiste, un ancien Premier ministre, un homme quand même énarque, enfin, il a occupé des fonctions importantes, etc. C'est absolument extraordinaire. On voit qu'à la faveur de la crise, il y a un certain nombre de gens qui lâchent des choses qu'ils ne devraient pas lâcher. Alors, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais il a eu une phrase qui est « L'entretien est passionnant ». Mais c'est à propos de la Grèce, il dit, et ça, il l'a confirmé, c'est pas une erreur. « Personne ne le dit, mais il ne peut y avoir d'issue en Grèce qu'avec un pouvoir militaire. » Ben oui, c'est paru samedi 2 mars, dans Libération. Voilà. Il le dit, par exemple, voilà, l'obligation de la décroissance, c'est ce qu'il écrit dans son livre qui vient de sortir, hein, qui s'appelle « Mes points sur les i ». L'obligation de la décroissance conduira à la guerre civile. Ce n'est pas tenable. Ça pose d'ailleurs une question majeure pour la Grèce, qui subit une décroissance forcée. Il n'est pas possible de gouverner ce peuple en lui disant qu'il va perdre 25% de son revenu dans les 10 ans si on tient à payer toutes les dettes. Personne ne le dit. Il ne peut y avoir d'issue en Grèce qu'avec un pouvoir militaire. Intéressant.
Alors,
et vous prenez Mikis Theodorakis, qui est quand même une des gloires musicales de la Grèce, qui est quand même connue mondialement, et qui est un militant socialiste. Enfin, d'ailleurs, bon, il a démissionné du Parti Socialiste, militant d'extrême-gauche. Bon. Et alors, il a publié un texte absolument fascinant, qui a été repris notamment sur par le réseau Voltaire, mais qui est... Vous tapez Mikis Theodorakis, etc. Et c'est un article absolument fascinant. Ça commence par « Un complot international est en cours, visant à mener à terme la destruction de mon pays ». Les assaillants ont commencé en 1975 avec comme cible la culture grecque moderne, puis ils ont poursuivi par la dissolution de notre histoire récente, de notre identité nationale, et aujourd'hui ils essaient de nous exterminer physiquement par le chômage, la famine et la misère. Si le peuple grec ne se soulève pas pour les arrêter, le risque de disparition de la Grèce est bien réel. Je la vois arriver dans les 10 prochaines années. Le seul élément qui va survivre dans notre pays sera la mémoire de notre civilisation et de nos luttes pour la liberté. Enfin, c'est exactement ce que dit Michel Rocard. Je ne sais pas si ça, ce que ça vous suggère, mais enfin, pour les auditeurs qui disent qu'on n'aborde pas, bon, qu'on est, oui, on est, je l'ai dit plusieurs fois, on est en plein, on commence là vraiment à entrer dans la crise. Il faut savoir que la Grèce, c'est la France dans 2 ou 3 ans.
C'est ce que j'allais dire, les complotistes de tout poil voient cette évolution militaroïde un peu partout. Aux États-Unis, si vous allez sur les sites complotistes américains, on vous explique que d'ici à 2 ou 3 ans, ce sera le gouvernement.
On n'en est quand même pas très loin.
Militaire aussi.
Moi, je ne pense pas du tout que ça soit complotiste. Je ne dis pas que ça va se produire. Je pense que c'est des gens qui ont une saine analyse. Vous ne pouvez pas faire tourner les faussement, parce que ce n'est même pas la planche à billets, c'est dire je donne 1 000 milliards de dollars à telle banque, 1 000 milliards, 1500 milliards à telle autre banque, etc. Et se dire que les choses ne vont pas changer. Alors qu'un jour, les gens ils vont quand même découvrir que l'argent ne vaut rien et qu'il vaut mieux revenir sur des valeurs réelles qui sont la terre, l'or, les minerais. Etc. Il y a un moment où ça va être la faillite. Enfin, je crois qu'on va vers une faillite financière.
Le problème, c'est que l'or en circulation aujourd'hui, l'or physique, représente moins que la dette de la France.
Ah non, mais attendez, je ne vous dis pas le contraire. Hein. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment où effectivement les gens commencent. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que des gens qui sont quand même. Mikis Theodorakis, c'est quelqu'un qui n'était pas encensé dans Rivarol. Je crois qu'il n'a jamais été encensé. Mais c'est quelqu'un qui est une espèce de. C'est un peu différent, mais enfin, c'était un bobo, pourrait-on dire. C'était un aimable plaisantin, quelqu'un. Bon. Et puis finalement, on se rend compte qu'avec la crise, il arrive à dire des choses qui sont intéressantes. Michel Rocard, de temps en temps, arrive à dire des choses intéressantes. Même Jacques Attali, ça lui arrive.
Mais c'est vrai que sur la dérive totalitaire, il faut quand même se rappeler qu'en Italie actuellement, on a quand même un président du Conseil et un gouvernement qui n'a été élu par rigoureusement personne.
Et qui a réussi un exploit.
C'est quand même assez
faire
extraordinaire.
Partir Berlusconi.
En parlant de démocratie à longueur d'antenne et à longueur de journée, les Italiens sont gouvernés par un gouvernement qu'ils n'ont pas choisi et qui leur impose des mesures d'ailleurs totalement inefficaces d'austérité, de contrôle, etc., etc. On n'a plus le droit de payer rien avec plus de 1 000 euros en liquide en Italie. Maintenant, ça s'est établi. Enfin, on voit quand même, sans être paranoïaque, il y a une dérive totalitaire assez nette. Et cette dérive totalitaire, elle est au profit des banques et du système financier. C'est vrai que c'est des problèmes peut-être un peu plus importants que les poulets halal du Franprix.
Non, mais ce que vous dites est très vrai. C'est exactement comme à partir du 1er, si mes souvenirs sont bons, j'en ai parlé dans Faisais Documents, à partir du 1er août 2012, je crois qu'il sera interdit en Allemagne, qui est pourtant un pays où les gens utilisent très peu de cartes bancaires, très peu l'échec, et les gens dépensent ont beaucoup d'argent en espèces. On appelle l'argent liquide, à partir du 1er août 2012, je crois qu'il sera, je le dis de tête, mais je crois que ça sera 500 euros. On ne pourra pas dépenser, donc tous les trucs, il devrait y avoir des transactions officielles.
Monnaie électronique.
Et on sait très bien qu'un des objectifs à terme est de supprimer même les billets, etc. Je pense que je ferai un jour une émission avec Michel Prieur, qui est quand même le numéro 2 des numismates en France et le premier sur Internet en Europe. Qui est un habitué de cette radio, bon, qui dans ses articles, dans la revue qu'il anime, etc., explique qu'en fait un des objectifs est de supprimer toute la monnaie, la monnaie qui reste, c'est-à-dire à la fois les pièces de monnaie et les billets, de manière à ce que tout se fasse par carte bancaire, par l'intermédiaire des téléphones, par le porte-monnaie électronique mono, etc. Qu'il y a un contrôle total de l'individu.
Non seulement un contrôle total, mais pour les marchands, une connaissance totale de ses habitudes pour pouvoir le cibler.
Et comment on va faire la communauté chinoise de France
Ils seront bien obligés de s'y plier. Il y a un moment, vous savez, c'est les gens ne se rendent pas compte. Vous savez, chose qui me surprend, je ne peux pas vous rappeler des souvenirs, mais par exemple, vous savez, avant 1979, quand on évoquait Henri Coston, Jacques Bordiau, des gens comme ça, abordaient la question de la supranationalité et du Parlement européen. Ça paraissait totalement délirant. Finalement, ça s'est fait. Il suffit de voir les discours que tenait Jacques Chirac, défense des intérêts de la France en Europe, la liste DIF, où ils étaient totalement opposés. C'était en 79.
L'appel de Cochin, 78, l'appel de Cochin.
Donc c'est en 79 où ils faisaient des discours où ils expliquaient clairement ce qui allait arriver. C'est produit aujourd'hui, ils l'ont rallié. Donc ce qu'un certain nombre de gens peuvent vous dire à Radio Courtoisie ou sur d'autres radios, dans les revues qu'on anime, ce ne sont pas des lubies au niveau de l'esprit complotiste. C'est ce qui est en train de se produire.
Et Herman Van Rompuy, le fameux président, le double président de l'Europe, parce qu'il y a le président de la Commission, il y a lui, il vient de rempiler pour 2 ans et demi, élu par qui? Par personne?
Il est élu par la Commission trilatérale dont il est membre et le groupe de Bilderberg dont il est membre. C'est simple, hein. Alors, il y avait encore la baisse des prix de la graisse, etc. Il y avait beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que ça vous suggère? Parce que vous avez dû voir la campagne qui est lancée depuis hier ou avant-hier en faveur de l'euthanasie.
Oui.
Vous savez où il y a les affiches Marine Le Pen mourante dans un... Mais il y a aussi François Bouhérou.
Qui est au programme de François Hollande.
Nicolas Sarkozy qui a intubé, etc. En disant, monsieur le candidat, doit-on vous mettre dans une telle position pour faire évoluer la vôtre sur l'euthanasie? Alors derrière, en fait, c'est la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Hein. Donc, il faut savoir que le président, c'est Jean-Luc Romero.
Un ancien de l'UMP, d'ailleurs.
Ancien de l'UMP.
Et militant homosexualiste.
Qui a rejoint le membre du Grand Orient de France. On va faire la totale, là. Voilà. Il n'est pas borgne, donc il ne gagnera pas avec un handicap sur terrain lourd. Enfin, c'est pratiquement ça. Je veux dire, c'est une espèce de... Il est conseiller régional, puisqu'il a été renouvelé à la faveur de... Puisqu'il a rejoint le Parti radical de gauche. Et je ne sais pas ce que ça vous suggère. Bon. Il y a eu une interview. Bon, c'est Marisol Touraine, donc qui est la spéciale députée socialiste, qui est la fille du sociologue catastrophiste de mai 68, qui a fait sa vie sur mai 68 en développant des théories débiles. On voit le résultat que ça a été avec les enfants depuis, les enfants de mai 68, qui demandent de l'autorité, on le voit tout le temps, et qui n'en peuvent plus de leurs parents, qui n'arrêtaient pas de se mettre des pétards dans le nez. Bon. Eh bien, Marisol Touraine donc, fait le point là, samedi 3 mars. Donc Marisol Touraine est la spécialiste des questions d'éthique et de biologie, etc. D'éthique, on se demande si c'est de l'éthique. Dans Libération, elle explique que le Parti Socialiste imposera un droit sur la fin de vie comme il y a un droit sur l'avortement.
Non, mais de toute façon.
Un droit à l'avortement, donc il va y avoir un droit à la fin.
Bien sûr, mais de toute façon, Jacques Attali, il l'avait déjà dit il y a quelques années, et de manière cynique, il disait bien que c'était une façon de résoudre le problème des retraites, c'est-à-dire réduire le nombre de retraités. Effectivement, l'euthanasie active, c'est un moyen de réduire assez rapide, effectivement, de réduire le nombre de retraités. Alors, c'est quelque chose qui est abominable, mais on s'en prend ainsi au debout de la vie, à la naissance, avant la naissance, après l'avortement, et à l'autre bout de la vie, avec l'euthanasie. Et donc, je précise qu'il est au programme du Parti Socialiste et de l'ensemble des partis de gauche, d'extrême gauche, il faut le savoir, ainsi que le mariage homosexuel et l'adoption. Et s'ils sont élus, ça on l'aura dans les mois qui viennent. Et je ne suis pas sûr que les gens imaginent que si le mariage homosexuel est élu, ça voudra dire que les 36 000 maires de France seront obligés, sauf risquer des amendes, des prisons, de la destitution, de marier des homosexuels. Hein. Il faut le savoir. Je veux dire, ça, voilà les conséquences quand même dramatiques et très concrètes que l'on va avoir. Bon, ça participe de la destruction volontaire, systématique, méthodique, de nos valeurs traditionnelles, de notre héritage chrétien, de nos racines chrétiennes. Et je dirais même que c'est même pire que ce qu'avait fait le communisme soviétique, qui a été un des premiers pays au monde, je crois le premier pays au monde d'ailleurs, à légaliser l'avortement. Mais là c'est vraiment pire, parce qu'on veut vraiment détruire non seulement la cellule familiale, mais je dirais ce qu'il y a de plus sacré dans une logique vraiment matérialiste, athée et absolument satanique ou antéchristique.
Alors, comment on va avoir, il va bientôt falloir qu'on, parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent intervenir d'ici 19h30, je voudrais vous proposer que vous présentiez un petit peu vos journaux. Donc,
Volontiers. Bah, écoutez, donc là,
Jérôme Bourbon, directeur semaine, de Rouvrage, vous annonce le numéro qui sort aux auditeurs de Radio Campus.
Alors le numéro donc qui sera en kiosque vendredi et qu'on peut éventuellement commander à Rivarol en rue d'Hauteville, Paris 10e, téléphone 01 53 34 97 deux fois, eh bien il y a beaucoup de choses. Il y a un article sur la réélection de Poutine dont on aura pu parler, le fait que Poutine c'est véritablement le diable à l'heure actuelle pour tout l'Occident, hein. On parle sans cesse de fraude comme si on avait des leçons à donner en matière de démocratie quand on voit ce qui s'est passé en 2002 pendant la quinzaine de la haine ou autre. Bon, je fais un éditorial sur la giscardisation de Sarkozy finalement, hein, et qui aura beaucoup de mal semble-t-il être réélu. Et puis j'insiste beaucoup quand même sur le programme de François Hollande, parce que l'homme paraît mou, mais son programme est particulièrement délirant, et le fait qu'il ait besoin des Verts et de Mélenchon, eh bien c'est particulièrement inquiétant.
Alors rappelez,
l'adresse. Alors l'adresse.
Ou la site internet.
Oui, bien sûr, Rivarol en rue d'Hauteville, 75010 Paris, site internet www.rivarol.com.
Jeanne Smith.
Alors, dans le présent, alors, il y a eu sujet voisin de celui de l'euthanasie. On ne se rend peut-être pas assez compte. J'ai fait une très grande interview sur le don d'organes et la mort cérébrale qui est passée dans le numéro daté de mardi de cette semaine. Vous pouvez l'acquérir en appelant le 01 42 97 51 30. C'est le numéro de téléphone de présent. Et je continuerai sur ce sujet qui est intéressant. Sur l'euthanasie, je vous renvoie à mon blog, parce que je vais revenir sur toutes les évolutions de l'euthanasie aux Pays-Bas qui sont tout à fait inquiétantes, où on en est à euthanasier des gens qui commencent à devenir démentes et qui n'ont pas envie de le devenir davantage. Dans le présent de cette semaine, il y a aussi pas mal de retours sur les 50 ans de la fin de la guerre d'Algérie, également sur les 10 ans de la mort d'André Figueras. Ça, c'est un article qui sera dans le présent de demain. Donc, pas mal de choses en perspective. Je vous invite à appeler le journal au 01 42 97 51 30 pour vous faire offrir, pourquoi pas, une ristourne sur l'abonnement de 6 mois, ou sinon d'aller visiter le site www.présent.fr.
Alors, avant de passer la parole à Xavier Aymant pour orientation identitaire, j'aurais salué l'article assez conséquent de Caroline Parmentier, j'ai oublié de le faire en début d'émission, qu'elle a consacré au décès de
Luc de Saint-Seine.
Donc, je ne sais pas si la question était déjà abordée à l'antenne de Radio Courtoisie, mais Luc de Saint-Seine était un homme assez extraordinaire. C'était un très grand bâtisseur. Et à partir de ce qui était de véritables ruines, c'est lui qui a créé le domaine de Grand Maison en région parisienne, à côté de Saint-Long-la-Bretèche, à Villepreux, qui était un endroit où je dirais que tout le milieu identitaire, nationaliste, populiste, etc.
Et catholique,
oui, non, mais
non,
bien sûr,
tous accueillis.
Tout le monde était très aimablement reçu à des prix défiant tout en concurrent. C'était quelqu'un de courageux, puisqu'il faut savoir que c'était lui qui organisait un très grand nombre de séminaires d'entreprises de la défense. Et ça gênait tellement, je peux le dire maintenant qu'il est, enfin, puisqu'il est décédé, je suis plus tenu au secret, l'année dernière, il avait eu des menaces extrêmement précises d'un certain nombre de, comme on dit toujours, d'un certain nombre de lobbies qui n'existent pas, qui lui avaient fait comprendre que s'il accueillait la réunion à la table ronde de Terre et Peuple, le milieu des entreprises de la défense lui serait définitivement coupé. Bon, et donc là, il avait été obligé de céder parce que c'était sur le point de Terre et Peuple. Les autres organisations n'étaient pas visées. Voilà. Mais c'était un homme tout à fait exceptionnel. Je pense que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, je crois qu'il y avait eu les 20 ou 25 ans de présents.
Il y a eu les
60 ans de Rivarol.
Les 60 ans de Rivarol, il y a eu toutes sortes. Bon, Renaissance catholique qui était reçue.
Tous les ans.
La Griffe y était reçue. Il y avait toutes sortes d'organisations. Il y avait des dîners du Front National. C'était bon. Voilà. Donc je voulais saluer sa mémoire. Et vous êtes le seul journal, effectivement, qui en ait parlé.
Et je voudrais signaler que ces obsèques auront lieu vendredi en l'église Saint-Germain de Villepreux à 14h30.
Voilà. Xavier.
Eh bien, toujours donc le numéro 1 de l'orientation identitaire avec son dossier consacré à vers un post-nationalisme, point d'interrogation, qui est donc constitué d'une série d'entretiens sur la question européenne avec des écrivains et des penseurs ou des politiques comme Pierre Le Vigan, Frédéric Pichon, Arnaud Guyot-Janin, Philippe Millot, Jacques Cordonnier. Vous pouvez obtenir ce numéro à l'adresse Libro, L-I-B-R-O, Libro, 3 bis, rue du Colonel Houdot, 75 012 Paris, et contre un chèque de 6,5 € à l'ordre de Libro. Voilà.
Alors, chers amis, avant qu'on passe à un nouvel invité que je vais avoir au téléphone, est-ce que je vais vous présenter donc le numéro actuel de Faits et Documents, la revue que j'anime. Donc j'ai commencé, c'est une exclusivité, je suis assez fier de l'avoir, puisque c'est une véritable exclusivité, personne ne l'a jamais. Je donne la composition complète des invités du dîner du CRIF dans le numéro qui sort. Comme c'est un peu long, ça se poursuivra dans le numéro du 15 mars. Et d'autre part, bon, il y a toutes sortes de nouvelles confidentielles, des éléments qui seront ensuite pillés dans le reste de la presse, les réunions des loges maçonniques, etc. J'ai publié un dossier très complet sur les classes moyennes, point de bascule de l'élection présidentielle, qui me paraît être une bonne synthèse de tout ce qui a pu paraître sur la question et qui va même beaucoup plus loin, parce qu'on se rend compte que l'objectif actuel, aussi bien de Marine Le Pen que de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, est de récupérer le vote de ces classes moyennes. Par ailleurs, bon, je rappelle, bon, c'est un petit peu connu, mais il y a eu, j'ai étudié assez longuement le rapport de la Cour des comptes sur la manière dont Nicolas Sarkozy a bradé l'or de la France.
360 tonnes d'or. Oui.
Voilà, ce qui a, il a vendu alors que l'or était déjà en train d'augmenter et allait augmenter. Donc, à la date d'aujourd'hui, avec ce qu'il a vendu, il a perdu. Nicolas Sarkozy nous a coûté durant son septennat 24,05 milliards d'euros. 24 milliards d'euros que nous aurions toujours dans nos caisses si Nicolas Sarkozy n'avait pas dit il faut vendre l'or parce que l'or, ça n'aura jamais aucune valeur. Voilà. Donc, il y a toutes sortes d'informations. Vraiment, bon, il y a le rapport du service de protection de la communauté juive, enfin, il y a toutes sortes d'éléments. Donc, pour commander le numéro, ben, vous allez sur faisetdocument.com, vous trouverez mon adresse, le téléphone, etc. Il y a des numéros en ligne et vous pourrez m'envoyer un courriel pour que je vous envoie un numéro en PDF.
Est-ce que je peux rappeler l'existence du bulletin de réinformation de Radio Courtoisie du lundi au vendredi et le kiosque du samedi de 7h15 à 7h30, rediffusion de 11 à 11h45 et 21h. Et vous pouvez nous écouter en continu sur le blog Courtoisie ainsi que sur les sites F de Souche et Nouveau Presse. Voilà, c'est dit.
Vous avez raison parce qu'on ne parle jamais assez de vous, alors vous vous levez comme toutes les équipes très tôt le matin pour faire le bulletin.
Et nous couchons très tard la veille.
Alors là, nous allons prendre une invitée au téléphone, Madame Catherine Blin. Vous êtes à l'appareil ?
Je suis là. Bonjour. Bonsoir, exactement.
Voilà. Donc, Catherine Blin, vous êtes présidente de l'association Citoyenneté, Nationalité et Identité.
Voilà.
Et vous organisez...
Un ordre un peu différent. Nationalité, Citoyenneté, Identité. NCI.
Ah, parce que c'est mal imprimé sur votre papier. Ils ont mis Citoyenneté, Nationalité et Identité.
C'est pas grave.
Voilà. Pour moi, c'est à peu près la même chose.
Oui, oui.
Alors, vous organisez des assises nationales à Paris ce samedi 10 mars. De 9h à 19h, à l'espace Charenton, donc bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, parce qu'à plusieurs reprises, la fête du livre de Radio Courtoisie a eu lieu à cet endroit, donc c'est 327 rue de Charenton, dans le 12e arrondissement. Et donc le thème, c'est la France en danger, et vous allez nous en dire plus, parce que le grand thème, c'est contre le droit de vote des étrangers, défendons notre identité, et nous en parlions dans la première partie de l'émission.
Absolument. L'idée, en fait, m'est venue lorsque s'est profilé à l'horizon le vote par le Sénat du texte de loi favorable au droit de vote et d'éligibilité des étrangers. Ensuite, j'ai lancé à l'époque une pétition sur France Pétition et je pensais avoir peut-être quelques centaines de réponses. Finalement, j'ai eu plus de 10 000 réponses de gens qui signaient contre le droit de vote des étrangers. Et ensuite, j'ai reçu d'ailleurs de la part de ces gens-là beaucoup de mails qui me disaient « Enfin, quelque chose qui s'organise, nous aimerions participer, etc. » J'ai eu beaucoup de demandes. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'association NCI, qui a une vocation un peu plus large, bien sûr, que de ne traiter que du droit de vote des étrangers. Et le but de ces assises, c'est à la fois de dire et d'expliquer pourquoi nous sommes défavorables au droit de vote et, je précise, et d'éligibilité des étrangers, parce que il y a eu par exemple un sondage BVA qui a eu lieu peu après la création de cette association, qui lui donnait 61% des Français, soi-disant, favorables au droit de vote des étrangers. Alors bien évidemment, la question était un peu biaisée, elle était incomplète, on ne parlait pas de l'éligibilité justement, et puis il y avait tout un petit travail de préparation des esprits avant pour être sûr que les gens répondent comme il fallait. Bon, alors à la suite de ça, moi j'ai lancé un sondage que j'ai adressé aux maires de France pour leur demander justement à titre personnel quelle était leur position là-dessus. Et j'ai reçu sur environ 30 000 mails envoyés, j'ai eu environ 10 000 réponses. Certains n'ont pas ouvert leur mail, ont dû les mettre à la poubelle directement. Et sur les 10 000 réponses, j'ai 90% de non. Voilà. Donc c'est tout ça qui m'a incité aussi à créer cette association et à ensuite organiser ces assises. Tout ça s'est fait très vite, hein, parce que l'association est créée depuis le mois de janvier. Vous voyez, on est au mois de mars. Donc en deux mois, tout ça s'est fait en deux mois. Et comme j'avais beaucoup de demandes de gens qui voulaient participer, eh bien, beaucoup ont pris l'initiative de créer des comités régionaux. Il y a à l'heure actuelle 9 comités régionaux qui commencent à tourner avec des adhérents, etc. Et nous avons tous décidé, sous, je dirais, la pression populaire, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, des assises, donc qui vont être, en gros, si vous voulez, scindées en deux. Le matin, on va traiter beaucoup plus du droit de vote des étrangers. Et l'après-midi, et c'est d'ailleurs le nom de ces assises, nationalité, citoyenneté, l'après-midi, on va surtout traiter d'une refonte du code de la nationalité.
Alors, vous avez
des propositions originales qui interviendront donc en fin de journée.
Voilà, donc vous avez de nombreux participants, enfin orateurs.
Oui, absolument. Il y a de nombreux intervenants. Oh là là, voyons, ça va être difficile de vous les citer tous, mais il y aura notamment Yves Amblot, Jean-Yves Le Gallou, Yves-Marie Lolland, Philippe Conrad, l'historien, Jean-Paul Gourevitch.
Je crois que vous en oubliez un qui est essentiel quand même.
Il y aura Henri de Lesquin également.
Ah, Henri de Lesquin, voilà.
Oui, voilà. Et alors c'est rigolo parce que j'ai suivi au fond un peu la même évolution que M. de Lesquin, dans la mesure où moi-même je viens à l'origine du RPR, bon, il y a 20 ans, et je n'ai jamais adhéré à l'UMP. Pour la bonne et simple raison que déjà, lorsque j'étais au sein du RPR dans les années 85, 6, 7, 8, j'étais totalement favorable à un rapprochement de toutes les droites. Et évidemment, ça ne semblait pas être l'opinion générale. Donc, j'ai fini par me faire une raison et j'ai quitté ce mouvement. Voilà. Donc, je suis à l'heure actuelle un électron libre, on va dire.
D'accord. Donc ça va se former sous la forme de différentes plates des débats,
oui,
plusieurs orateurs, des questions.
Voilà, absolument. Moi, j'ouvrirai les assises à 9h30. Vont d'abord intervenir assez rapidement, j'espère de façon un peu rythmée, les différents responsables régionaux de l'association NCI. Ensuite, nous aurons un premier orateur. Puis très rapidement une table ronde avec différents orateurs. Je peux vous donner le programme si vous voulez. Le premier orateur, en fait la table ronde va intervenir vers 10h15 avec animée par Philippe Conrad, l'historien, qui rassemblera Guillaume de Thieulois, Guy Rachet et Yvan Blot. Ensuite il y aura environ une heure et quart de travail. Ensuite nous aurons un orateur qui est un espagnol, Javier Portela, qui est un intellectuel espagnol qui a créé un journal, El Manifesto, qui est un journal évidemment politiquement très incorrect. Ensuite, nous aurons Pierre Cassin de Riposte Laïque. Puis, nous aurons un autre orateur qui est Philippe de Winter, le
député de Vlaams-Belang.
Député du Vlaams-Belang belge, évidemment, flamand lui-même, mais parlant très bien français. Je précise d'ailleurs que l'espagnol parle aussi très bien français. Ensuite, il y aura une pause repas vers 12h30.
Bon, on ne va pas vous demander tous les détails, voilà. Parce que les auditeurs ne pourront pas noter.
Voilà, et l'après-midi, il y aura d'autres orateurs, Yves-Marie Lolland, un orateur surprise dont je vous dirai pas le nom, mais que, bien entendu, dont vous serez informé.
Nicolas Sarkozy?
Non, pas vraiment. Et une table, il est étranger aussi, lui. Et une table ronde avec Jean-Yves Le Gallou, Marc Rousset, Jean-Paul Gourevitch.
Alors, si on veut trouver les renseignements, vous avez un site internet?
Oui, alors il y a un site internet que vous trouvez en tapant nationalité, citoyenneté, identité, la France en danger. Vous êtes sûr de tomber sur...
Donc on va répéter, vous tapez dans un moteur de recherche,
absolument,
nationalité, citoyenneté, identité, la France en danger, et donc voilà, on tombe sur votre site avec tout le programme.
Absolument.
Ah, je crois que c'est le plus simple. Hein.
C'est le plus simple.
Bon, alors
j'invite bien évidemment les auditeurs à venir nous rejoindre à 9h. Les portes s'ouvriront à 9h, donc samedi prochain, 10 mars, au 327 rue de Charles.
Très bien. Bah,
cette journée.
Nous allons nous quitter, mais juste après, je vais redonner, une fois que vous aurez raccroché, je vais redonner l'adresse, toutes les coordonnées. Hein,
vous êtes gentil.
Merci beaucoup,
voilà,
Madame Blin.
Et l'après-midi, donc, nous ferons des propositions, et ça, c'est ça qui est intéressant, nous ferons des propositions assez originales pour une refonte du code de la nationalité.
Très bien. Eh bien, je vous remercie, Madame Blin.
Je vous remercie.
Au revoir, Madame. Donc, je rappelle à nos auditeurs, donc, aux éditeurs de Radio Courtoisie, on a l'impression que c'est d'ailleurs une espèce de rendez-vous des animateurs de Radio Courtoisie. Donc, ces assises nationales, la France en danger, organisées par l'association Nationalité, Citoyenneté, Identité, qui auront lieu le 10 mars 2012, de 9h à 19h, à l'espace Charenton, 327 rue Charenton, 75 012, Paris. Voilà. Alors, je vais passer la parole dans quelques instants à Mathilde Parsimperi, qui aurait dû arriver un petit peu avant, mais qui est un peu en retard, ce qui fait que ça a chamboulé un petit peu le programme. Donc, pour annoncer aux auditeurs de Radio Courtoisie, un événement surtout de ne pas rater, qui aura lieu donc le mercredi 21 mars, qui est la première rencontre... Non, excusez-moi. Le mercredi 21 mars... qui sera la première rencontre des auditeurs des fanatiques, des amateurs du site d'information fdesouche.com. Donc c'est une soirée qui est organisée à Paris, une grande soirée qui est organisée au CAF Saint-Sabin, qui est un endroit agréable que les auditeurs qui s'intéressent au Moyen-Âge et aux reconstitutions historiques doivent connaître. L'entrée est à un prix extrêmement modéré. J'y serai, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes, pas dire des personnalités, mais enfin des animateurs de Radio Courtoisie ou d'autres choses. C'est pas du tout une soirée politique ou quoi que ce soit, ce sont les gens qui s'intéressent à l'information sur Internet. Et je ne peux que recommander donc aux gens d'aller sur le site fdesouche.com et vous avez tous les renseignements. Et comme il n'y a que 300 places, je vous conseille de vous inscrire dès maintenant pour pouvoir... y être reçu. Je donne maintenant la parole à Mathilde Parsimperi pour les Bobards.
Oui, je parlais déjà, désolé Manuel, j'étais déjà partie sur les Bobards qui auront donc lieu le 20 mars. Donc, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous connaissez déjà peut-être cet événement qui est organisé par Polémia. Et c'est cette année la troisième édition donc des Bobards. Donc Polémia est partie d'un constat que les journalistes n'étaient pas toujours très honnêtes et désinformés, au lieu d'informer de temps en temps leurs lecteurs ou leurs auditeurs ou les gens qui regardaient la télévision. Et ils ont donc mis en place cette édition des Bobards qui vise donc à remettre les prix de la désinformation aux journalistes qui ont sciemment, le plus habilement menti pour servir le système. Donc ce sont des mensonges qui imposent le politiquement correct, des mensonges répétés. Par exemple... de toujours enfermer les Albanais dans le rôle des gentils, les Serbes dans le rôle de méchants. Et ce sont des mensonges qui, répétés, finissent par imposer le politiquement correct et finissent par imposer un certain ordre, un certain système en France. Donc il y a une sorte de florilège assez impressionnant cette année que vous pouvez, chers auditeurs, retrouver sur le site internet des Bobards. Donc je vais vous donner l'adresse www.bobards.fr. Donc vous retrouverez par catégorie, donc il y a une catégorie pour la radio, une catégorie pour la télévision, une catégorie pour la presse écrite et une catégorie un peu spéciale cette année, la catégorie des bobards de guerre, puisqu'on a été assez marqué avec la Libye notamment cette année, où les médias se sont illustrés avec la désinformation dans cette affaire. Et donc vous pourrez retrouver un petit peu les catégories dans chaque bobard. Donc vous allez pouvoir voter sur Internet. Il y a déjà plus de 1500 personnes qui ont voté. Donc je vous encourage à donner votre avis sur notre site Internet. Donc ça, ce sera la première partie du vote. Et ensuite, nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 20 mars, donc 8 rue d'Athènes, salle Athènes Service, dans le 9e arrondissement de Paris, pour déterminer, donc les votes Internet auront fait émerger certains des bobards et les personnes sur place voteront pour le bobard le plus édifiant.
Alors, redonnez l'adresse, c'est important.
Alors, c'est 8 rue d'Athènes, à la salle Athènes Service, dans le 9e arrondissement de Paris. L'inscription est obligatoire, donc il y a une adresse mail, contact@bobard-d'or.fr.
On se retrouve dans quelques minutes après la coupure technique, chers amis de Radio Courtoisie.
Voici un message de Michel de Gégère, journaliste, écrivain, vice-président de Renaissance catholique, directeur des hors-séries du Figaro.
Dans un monde où on n'a que la liberté à la bouche, Radio Courtoisie est un des rares lieux où cette liberté correspond à une réalité. Et il me semble que dans les 20 dernières années, c'est peut-être la seule vraie victoire de notre famille politique, d'être arrivé à instituer cet espace de liberté où toutes les sensibilités peuvent s'exprimer dans un amour commun de la France, de la langue française, de nos ancêtres, de notre pays.
C'était un message de Michel de Gégère, journaliste, écrivain, vice-président de Renaissance catholique, directeur des hors-séries du Figaro. Soutenez Radio Courtoisie, envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou rendez-vous sur radiocourtoisie.net.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, en clair, sur les bouquets satellites CanalSat et TNTSat, et pour le monde entier, sur notre site internet radiocourtoisie.fr.
Merci de passer la soirée à l'écoute de Radio Courtoisie. Je vous rappelle nos prochains rendez-vous tout à l'heure à 21h, comme tous les soirs de la semaine. Dernière diffusion du bulletin de réinformation de ce matin. À 21h30, en direct, le libre journal de la nuit de Paul-Marie Couteau. Et à 23h, les nuits musicales en compagnie de Benoît. Comme tous les mercredis, chant religieux polyphonique. Et ce soir, à l'honneur, les lamentations de Jérémie de Roland de Lassus. C'était bien l'horaire, 23h. Et puis tout de suite, toujours en direct, la seconde partie du libre journal de la Résistance française, dirigée aujourd'hui par Emmanuel Ratier. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Emmanuel Ratier, assisté d'Henri Dubost. Diffusé en direct mercredi 7 mars 2012 de 18h à 21h, en différé jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission est réalisée par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de ce libre journal par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers amis, nous nous retrouvons pour la seconde partie de ce libre journal de la Résistance française que j'anime ce soir avec Henri Dubost à mes côtés. Donc avant que de recevoir mes nouveaux invités, comme on l'a fait un petit peu rapidement, je voudrais rappeler juste les trois manifestations qui me paraissent vraiment intéressantes dont nous avons parlé précédemment. Donc la cérémonie des Bobards d'or qui anime et qui elle a été lancée depuis 3 ans par Jean-Yves Le Gallou, qui est le fondateur de Polémia et le coordinateur et fondateur des bulletins de réinformation de Radio Courtoisie. Donc les Bobards d'or auront lieu le mardi 20 mars à 20h, salle Athènes Service, 8 rue d'Athènes, dans le 9e arrondissement de Paris. et vous allez sur pour voter, vous allez sur le site et vous inscrire, vous allez sur le site Bobard au pluriel -dor.fr. Par ailleurs, le 10 mars auront lieu les premières assises La France en danger, largement consacrées au possible à la possible attribution du droit de vote et d'éligibilité des immigrés par l'association Nationalité, Citoyenneté, Identité, à l'espace Charenton, de 9h à 19h, 327 rue de Charenton, dans le 12e arrondissement de Paris. La troisième manifestation dont je parlais était la première soirée amicale des amateurs fanatiques et blogueurs et internautes de f2souche.com, qui constitue la première communauté d'information politique alternative et nationale populiste en France. Donc cette soirée aura lieu à partir de 20h au CAF Saint-Sabin, qui sont 50 rue Saint-Sabin dans le 11e arrondissement de Paris. Et pour vous inscrire, parce que je vous recommande, je crois qu'il y aura beaucoup de monde, pour vous inscrire, il faut vous aller sur le site f2souche.com et vous inscrivez en réservant. Il y a deux tarifs d'entrée, soit entrer à partir de 22h avec un verre compris, comme ça fait, sinon avec un grand buffet campagnard, mais qui n'est pas gratuit comme le faisait une certaine... pour moins de 30€, et vous bénéficiez de toute la soirée. Et je pense que ça sera l'occasion aux internautes de se retrouver. Donc j'accueille maintenant, j'ai le grand plaisir d'accueillir, je dirais, deux habitués, je dirais, à la fois de Radio Courtoisie et de ce micro, qui sont Francis Bergeron, un biographe qui écrit plus vite que son ombre, qui aujourd'hui, après... Béraud, Saint-Loup, rappelez-nous les autres titres.
Monfray, Fred, Hergé.
Hergé, le plus gros succès des éditions Pardès.
Oui.
Donc, Francis Bergeron vient de signer un Bardèche, donc Boris Bardèche, beau-frère de Robert Brasillach, fondateur de Défense de l'Occident, grand critique, très grand critique littéraire français. Et donc Bardèche dans la collection Qui suis-je chez Pardès. D'autre part, j'ai le très grand plaisir de recevoir un animateur de Radio Courtoisie en la personne de Philippe Dugue, et qui vient de signer une préface élogieuse, mais je crois qu'il y a également joué un grand rôle, pour un ouvrage absolument passionnant qui vient de sortir donc aux éditions Aouda Izard. Je redonnerai toutes les coordonnées dans le cours de l'édition, qui s'appelle « Je suis partout, anthologie 1932-1944 ». Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Guilliette, qui a, je crois, il nous racontera, Philippe Duc, je crois qu'il a abattu un gros travail de sans doute de dépouillement, de saisie, etc. Des meilleurs articles de ce formidable hebdomadaire, puisque l'ouvrage fait 650 pages. Il est illustré par des caricatures qui sont parues, en particulier Ralph Soupeau, qui sont parues dans Je suis partout. Il y a un index à la fin, et l'ouvrage est absolument passionnant. Pierre Guilliette est par ailleurs connu d'un certain nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie, puisque c'est le directeur d'une revue... d'autres diraient un fanzine, mais maintenant ce n'est plus un fanzine, c'est une revue de réflexion nationaliste tout à fait passionnante qui s'appelle Réfléchir et agir et qu'on peut se procurer dans les meilleures librairies ou qu'on peut, je donnerai les adresses, commander, puisque Pierre Guilliette nous a fait la gentillesse de venir, il vient de Toulouse. Voilà. Et tant Francis Bergeron que Philippe Duc signeront leurs ouvrages samedi qui vient, donc samedi 11 mars, c'est bien ça, 11 mars, 10 mars, je sais plus, j'ai pas mon calendrier en tête, enfin 11 mars, donc samedi qui vient, de 14 à 18h à la librairie Facta, 4 rue Clichy, Paris 9e, et malheureusement, je recommande aux éditeurs de Radio Courtoisie,
samedi 10,
aux auditeurs de Radio Courtoisie, et enfin aux auditeurs de Radio Courtoisie, de réserver leurs ouvrages à l'avance, parce qu'on a un gros problème avec les éditeurs. D'ailleurs, on va gronder Père Guilette qui est ici. Il a fait un trop petit tirage, et donc il nous reste actuellement, il nous reste que 40 exemplaires de Je suis partout, anthologie, et Pardès se révèle incapable de nous envoyer plus de 20 exemplaires de Bardèche. Nous avons aujourd'hui au téléphone, il semblerait que le tirage soit déjà épuisé.
Voilà. Nous en avons.
Et là aussi, je suis toujours étonné par la modestie des prévisions de Georges Gondinet.
Alors, ce que nous avons fait avec ce que je pense que tant Philippe Duc que Francis Bergeron seront d'accord, les auditeurs, enfin les qui se présenteront à la librairie, il suffira qu'ils règlent leur et les auteurs pourront leur dédicacer leurs ouvrages dès qu'on aura un nouveau stock. Enfin, si vous les réservez et vous les régliez avant, vous êtes sûr d'avoir votre ouvrage. Je donnerai le numéro de téléphone de la librairie tout à l'heure. On a eu le même problème le mois dernier quand on a eu un énorme succès avec Francis Cousin qui est venu pour sa critique de la société de l'indistinction, qui était citée en exemple par Marine Le Pen, alors que c'est un auteur de gauche, voire d'extrême gauche, et donc il a fait un tabac, et en 2 heures, il avait porté, je crois, 70 ouvrages, il n'y en avait plus, et donc tous les gens sont partis à 16 heures. Voilà. Donc messieurs, si ça marche bien, vous pourrez nous quitter très tôt. Alors, je ne veux pas accaparer le micro, mais je tenais puisque Philippe Duguay, j'ai pas voulu le faire en première partie, je voulais rendre un court hommage, mais un véritable hommage, à Hervé Couteau-Bégari, dont certains, si vous avez écouté l'émission d'Henri Glesquin et celle de Paul-Marie Couteau, ils vous en ont parlé, mais Hervé Couteau-Bégari, que nous connaissions bien tous les deux, était un homme absolument extraordinaire, dont je pense qu'il faut absolument saluer la disparition, à la fois parce que ça a été une très longue lutte contre la maladie, qu'il a affronté sereinement parce que c'était un grand catholique, avec le soutien de sa femme, et il est malheureusement disparu, alors que c'était vraiment un homme d'exception, qui était un des hommes les plus, je pense, cultivés de notre mouvance, même si c'était quelqu'un de discret. Il était énarque, magistrat, diplômé de Sciences Po, docteur en sciences politiques, historien. C'était sans doute le plus grand théoricien en stratégie navale de France, peut-être le meilleur professeur de stratégie en France, sans doute un des 2 ou 3 meilleurs spécialistes de stratégie navale dans le monde. Il a publié, il était directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. À l'école pratique des hautes études. Il ne faut pas confondre avec les rigolos bourdieusins. Et il a publié toutes sortes d'ouvrages. Il co-animait l'émission avec Paul-Marie Couteau. Mais il faut rappeler que c'était vraiment un pic de la Mirandole. Et je citerai simplement 2 exemples. Il était très ami avec Georges Dumézil. Et Georges Dumézil lui avait demandé de publier un recueil d'extraits de ses textes, pour permettre à des gens qui n'étaient pas des spécialistes des Indo-Européens, de la tripartition indo-européenne, de présenter un ouvrage d'approche qu'il a fait avec un remarquable brio. Et d'autre part, il avait publié au moins 2 ouvrages très importants qui démystifiaient, on pourrait dire, qui déstructuraient les tenants de la nouvelle histoire. Voilà, je cède la parole à Philippe Duc parce que c'était,
si vous permettez,
chez lui, c'est un homme exceptionnel.
Je voudrais juste ajouter un mot, disons 2. D'abord, je crois, Emmanuel, que c'est chez lui que nous avons fait connaissance.
Oui, c'est très exact.
Notre première rencontre, c'était chez Hervé Couteau-Bégari. Et ce que je veux dire, surtout, c'est que c'est quelqu'un que j'admirais profondément, ce qui est très très rare, s'agissant de quelqu'un qui avait l'âge d'être mon fils. Il est très rare que les aînés admirent leurs cadets comme ils admiraient les gens de leur génération, et surtout celles d'avant. Une des rares exceptions que j'ai connues, c'est celle d'Hervé Couteau-Bégari. Et une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir, grâce à lui, co-signé un livre que nous avons co-dirigé ensemble, qui s'appelle le cinéma, La guerre et le cinéma.
La guerre et le cinéma.
Dont il avait eu l'idée. Et c'est un de mes sujets de fierté de ces dernières années, de voir nos noms figurer ensemble sur la couverture.
C'est un recueil passionnant.
C'est surtout à lui qu'on le doit. C'était quelqu'un de tout à fait exceptionnel. J'ai fait une visite pathétique en soins palliatifs là, quelques jours avant sa mort, où il voulait me dire des tas de choses, il ne pouvait plus parler, et en principe il écrivait, et là les lignes se chevauchaient. Enfin, j'ai passé un moment vraiment épouvantable à essayer de parler d'autres choses, tout en l'intéressant. Et alors que je pensais qu'il allait comme sa famille qui était là hier m'a dit qu'il a disparu dans les 48 heures, il a encore tenu presque 2 semaines, je crois. Et 3 jours après ma visite, m'a dit un ami commun, il s'est levé, a demandé du papier et s'est mis à écrire. Il avait un article ou un livre à terminer. Moi, mon grand espoir, c'est qu'il a pu mener à bien sa bibliographie commentée des écrits de Ratzinger, Benoît XVI, car c'est le seul homme que je connaisse qui avait lu toutes les œuvres publiées de Joseph Ratzinger.
Il y a l'abbé Barthes aussi.
Ah bon, eh bien ça fait... il ne me l'a jamais dit. Alors que, je dirais que l'abbé Barthes, c'est presque un peu professionnel. Tandis que chez un spécialiste de stratégie, c'était déjà plus singulier. Et ce qu'il n'avait pas lu en français, il l'avait lu soit en allemand, soit en espagnol, soit en... je ne sais plus, enfin, il était polyglotte. Hein,
non, mais en même temps, c'était un extraordinaire spécialiste de bande dessinée, par exemple, parce qu'on n'en a pas parlé, il avait une collection extraordinaire de bande dessinée, il s'intéressait à toutes sortes de sujets qu'il maîtrisait absolument parfaitement. En même temps, il était d'une modestie...
Admirable. C'est pour ça que j'étais...
C'était un énarque sympathique, ce qui est rare.
On oubliait tout de suite qu'il avait été énarque. Hein. Il était beaucoup plus à son aise dans le milieu militaire. Et j'étais spécialement heureux du superbe hommage qu'on lui a rendu à l'école militaire pour ses obsèques. Hein. On lui a rendu les honneurs militaires avec une compagnie de chasseurs d'un régiment de Gap, je crois, qui revenait d'Afghanistan. Et il y a longtemps que je n'ai pas vu autant d'étoiles, des trois armes et un cercueil porté par 10 ou 12 officiers supérieurs ou un simple lieutenant peut-être, les deux. C'était magnifique. Hein. Et une messe rite Saint-Pie-V qui a quand même duré 2 heures et que tout le monde a trouvé trop courte. C'est une perte irréparable, hein, voir disparaître à cet âge quelqu'un de cette valeur et qui avait encore tant de choses à dire, c'est une blessure pour toute notre famille d'esprit.
Oui, c'était vraiment...
qu'on aura du mal à réparer.
Et il était tellement discret et modeste que beaucoup de gens ne connaissaient pas forcément. Et même l'ancien journaliste spécialisé dans la défense Mercher de Libération a reconnu que c'était un homme tout à fait remarquable, même s'il n'était pas du même avec lui, mais que c'était un homme précieux. Et il a lui-même, d'ailleurs, il l'a écrit dans son blog, qu'il n'avait pas été du tout reconnu de son vivant comme il aurait dû l'être, et occuper les places qu'il aurait dû... Parce que c'était un véritable... C'est un pic de la Mirandole, c'était stupéfiant.
Son traité de stratégie de 1000 pages, dont il a donné 4 ou 5 éditions, a été traduit dans une demi-douzaine de langues, hein, et c'est peut-être en France qu'il est encore le moins connu. Il avait traduit Clausewitz, ce qui est tout de même une entreprise pas facile.
C'est un spécialiste de Jomini.
Extraordinaire. Donc, oui, c'est vraiment...
Je crois que le plus bel hommage qu'on peut lui rendre, c'est de conseiller donc aux éditeurs de Radio Courtoisie, puisque beaucoup de ses ouvrages sont toujours disponibles. Ils sont parus chez Economica.
Oui.
Et véritablement, vous pouvez les acheter n'importe lequel. Un des derniers qu'il avait publié, c'était justement sur... Il était très optimiste parce qu'il estimait que la fin de la mondialisation, c'était pour 2030 et qu'à ce moment-là, les États-Unis se seraient écroulés. Mais il l'expliquait d'une manière habile, intelligente et très documentée. Et tous ses ouvrages sont d'exception. Voilà, je crois qu'il fallait quand même saluer sa mémoire parce que c'est... Je crois que c'était quelqu'un qui était vraiment trop modeste et voilà, on lui souhaite d'être au paradis. Voilà, donc...
J'ai entendu l'annonce du décès de Félicien Marceau.
Tout à fait.
Alors là, nous n'étions pas au courant. Voilà.
Ça s'est produit en début d'après-midi. J'étais au téléphone avec Arnaud Guyot Jeannin quand on est venu me porter la nouvelle. Il avait 98 ans. Oui, et
au moment où on ressortait son premier roman, d'ailleurs.
Oui, absolument. Une des dernières fois que j'avais vu, il y a déjà plusieurs années, je lui avais dit « Quand est-ce qu'on va rééditer les livres de Louis Carrette ?» qui était son vrai nom, et ses premiers livres, romans et essais, parus sous l'occupation. Et il m'avait dit « Mais justement, j'y pense sérieusement. » Et Bernard de Fallois est en train de le faire. Hein. Il y a déjà 2 ou 3 titres sortis chez lui.
Il y a eu sa correspondance avec Michel Déon aussi.
Alors, on peut pas, bon, faire une émission sur le décès de Félicien Marceau. Je voudrais seulement, d'autres vont le faire, je voudrais seulement rappeler, j'ai appris que, chers amis auditeurs, demain, Francis Bergeron a fait une émission préenregistrée avec Anne Brassier, qui passe demain.
Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça passait demain.
Oui, si. Oui. Alors, on m'a appris, c'est Dominique Paoli qui m'a dit que ça passerait demain. Donc, nous n'abordons pas les mêmes questions que celles qui seront abordées demain. Voilà. Alors, Philippe Dugue, on découvre dans votre préface que vous êtes un collectionneur de journaux, parti par héritage, lisé dans la famille, et que donc vous êtes un... On l'avait remarqué quand vous aviez publié les critiques cinématographiques de Lucien Rebattet, justement dans Juste un partout, je vous avais invité à cette occasion. Et aujourd'hui, on peut dire quand même que c'est un monument qui sort du sable, enfin qui est, parce que c'était... Je dirais que c'est un ouvrage un peu mythique que chacun s'est dit un jour. Je pense que Francis Bergeron s'est dit un jour je pourrais faire ça dans une autre vie. En 700 pages, mais je pense, vous allez nous expliquer Pierre Guilliette et Philippe Dugue, vous auriez publié en fait, pu publier un ouvrage aussi passionnant avec 700 autres pages. Je pense que c'est le premier d'une longue série. C'est passionnant, c'est bien écrit. On revoit tout. On voit une vingtaine d'années en... C'est lisible, c'est agréable. Enfin, je vous laisse la parole.
Emmanuel, je tiens tout de suite à une précision liminaire. Je ne suis pas pour grand-chose dans le livre tel qu'il est. C'est Pierre, Guilliette ou Juliette, je ne sais pas comment il...
Non, les deux, tout. Je prends tout.
Bon, je suis partout. Voilà. Donc, c'est Pierre qui a eu l'idée de cette anthologie. Il m'en a fait part, j'ai applaudi dès demain, je me suis dit, mais c'est évident, comment personne n'y a pensé, moi le premier, auparavant. Ça devrait exister, ça doit exister. Donc je l'ai encouragé, j'allais dire, je l'ai un peu aidé, à peine, il n'avait pas besoin d'aide du tout. C'est un grand monsieur qui sait très bien où il va et comment y aller. Tout au plus, lui ai-je soufflé peut-être une ou deux petites choses dans l'oreille. Et par contre, ce qu'il a fait, et ça c'était une très bonne idée, c'était de me demander la préface. Alors naturellement, il y avait deux possibilités. Ou je faisais une préface sérieuse de type universitaire et il me fallait 80 pages avec des notes, des renvois, tout ça. J'ai horreur de ça. Hein. J'ai eu des universitaires dans ma famille, mais vu ce qu'est devenu le métier aujourd'hui, j'ai pris ça en horreur et j'ai choisi la solution, peut-être aussi la plus paresseuse, une préface courte, subjective, qui tâche de ne contenir aucune erreur, parce qu'après tout, on n'est pas obligé d'être universitaire pour écrire des choses exactes. Donc j'ai fait un certain nombre de rappels, notamment de noms propres, de collaborateurs du journal, qu'on a souvent oubliés, qui ont tout fait pour se faire oublier. Certains y sont parvenus, d'autres pas. À cela se limite mon apport à ce pavé, à ce monument, car c'est un monument en effet, que j'ai découvert quand Pierre m'en a fait parvenir le premier exemplaire. Il y avait une ou deux choses dont je savais que je les y trouverais. Pour tout le reste, eh bien, ma surprise a été la même que vous, ou à peu de choses près.
Oui, mais enfin, je dis pas que ça recoupe. Enfin, bon, vous étiez déjà un spécialiste avec l'anthologie que vous avez publiée des critiques cinématographiques qui étaient parues dans Je suis partout de Rebattet, qui à un moment a été véritablement l'âme de cet hebdomadaire.
Cher Emmanuel, je suis spécialiste de rien du tout. Je déteste les spécialistes. Je suis un amateur de pas mal de choses en effet, disons un amateur éclectique, un amateur curieux et qui avait la chance d'avoir une très bonne mémoire. Ce qui fait que je me suis retrouvé au bout de pas mal d'années spécialiste d'un certain nombre de choses, en effet, sans le savoir, hein, sans avoir rien fait pour ça, sans l'avoir voulu, mais j'avais simplement, au fil des ans, acquis un certain nombre de connaissances. Ensuite, il suffit de les mettre en ordre et pas besoin d'être agrégé ou docteur d'État pour ça. Donc, oui, je veux bien être, je suis spécialiste, je suis partout, dans la mesure où j'avais une collection, non pas exhaustive, mais enfin assez complète du journal, comme de beaucoup d'autres journaux d'ailleurs de l'époque d'avant et d'après. Et j'ai passé des journées entières à dépouiller et à lire, à relire La prose de cette feuille à réputation exécrable aujourd'hui, et j'ai le regret de le dire, j'y ai passé des heures délectables, car en effet, à part un certain nombre de choses qui font dresser les cheveux sur la tête aux esprits les plus endurcis aujourd'hui, et que beaucoup auront la surprise, et souvent le plaisir, je pense, de découvrir là-dedans, il y a une qualité de lecture qui vient de la qualité d'écriture de la plupart des collaborateurs du journal et notamment de toutes les grandes signatures qui reste intacte. Hein. Et je crois que c'est la dernière phrase de ma préface. Beaucoup de plumitifs en vogue d'aujourd'hui pourraient y prendre des leçons de bon français. Sous-entendu chez ces mauvais français.
Alors, alors oui, on peut dire, bon, parce qu'il faut quand même rappeler son nom, d'ailleurs il est déjà venu à ce micro, mais pas pour parler de son droit. Il faut pas rappeler bon, les deux très gros travaux réalisés par Pierre-Marie Dioudana. Donc c'est Je suis partout, 1930-1944, Les Maurrassiens devant la tentation fasciste à la table ronde, qui est sa thèse, hein, si mes souvenirs sont, son, ou son doctorat.
Publié en 1973.
Voilà, qui est un ouvrage remarquable. Et par la suite, il avait fait Les 700 rédacteurs en chef de Je suis partout, où il identifie d'ailleurs la plupart des pseudonymes en donnant les vrais noms. Enfin bon, moi je lui ai indiqué quand même que j'en avais trouvé un certain nombre. Donc il n'avait pas, mais c'est la règle du jeu.
Je viens d'en indiquer à Francis Bergeron aussi que n'avait pas Dioudana. Je ne sais pas si vous l'aviez. Jean d'Ulysse.
Ah non.
Ah ben, il a été très connu ces dernières années. C'est Louis Védrine. C'est l'auteur du Mezzétain et de plusieurs autres bons ouvrages et d'un très bon petit volume de souvenirs de l'occupation. Je ne sais plus quel est.
C'est le père de l'ancien ministre.
C'est Jean Védrine et Hubert Védrine. C'est peut-être la même famille, mais bon. Ouais. Mais ce sont bon pour les spécialistes. Enfin, les gens qui s'intéressent à Je suis partout, ces deux livres. Bon, le second est plus un livre de spécialiste parce que c'est une.
Le second, il a révélé l'importance de ce journal et la foultitude des collaborations.
Ah, mais
et
ça, on va en parler parce que justement, c'est ce qui est. Absolument exact. Bon, je dirais, moi j'étais emballé, évidemment. Bon, j'ai la collection quasi complète, mais j'avoue, moi, je n'y arrive pas, parce que dès qu'on l'ouvre, c'est un papier, même avant le
papier de guerre,
même avant, ça a tendance à se déchirer, à se briser, parce qu'il y a de l'acide dedans, donc c'est des pâtes à papier qui n'étaient pas extraordinaires, donc on a plutôt tendance à les garder soigneusement à l'abri de la lumière pour les générations futures. Mais les textes que vous présentez, c'est absolument incroyable. C'est il y a l'histoire politique qui défile française, beaucoup de politique étrangère, mais aussi des chroniques de tourisme. Il y a un texte par exemple sur la Bourgogne avec lequel je me suis délecté. Mais on se dit, il y a dû y avoir sur le Nivernais, sur le Pays Basque, etc. Donc on attend un peu la suite, quoi. Bon. Alors comment c'est, je crois, Francis, vous pouvez peut-être, Francis Bergeron, vous pouvez peut-être justement resituer un peu cette revue. Parce que c'est pas du tout, c'est un peu comme Jean Fontenoy, pas du tout. Jean Fontenoy, quand on en a parlé, il a fallu attendre la biographie qu'a sorti Guégan l'année dernière, qui est pourtant un auteur très à gauche, en fait, d'ultra-gauche, etc., mais qui a une certaine empathie.
Difficile de penser qu'il est très à gauche quand on a lu la biographie.
Il rend hommage à Jean Fontenoy en expliquant que c'était quand même le patron de la Jeff Savas pour l'Asie, et que c'était pas un plumitif minable, et on a toujours toute personne qui a été dans l'LVF, dans la division Charlemagne, dans la milice, dans les francs-gardes, ou dans des journaux de la collaboration, plus ou moins, qui soient de gauche, de droite, du centre, etc., ce sont des ordures, des gens nuls. Bon. Or, il suffit de se rendre compte que c'est
bien. C'est exactement le contraire, et je dirais même que c'est
la qualité.
C'est l'histoire de Je suis partout, c'est pas l'histoire de 1930 à 1944, c'est l'histoire de 1973 à aujourd'hui. C'est-à-dire c'est la redécouverte, enfin, ou la découverte que entre 30 et 44, il y a eu un hebdomadaire qui a agrégé des talents extraordinaires, et on découvre aujourd'hui le contenu justement de Je suis partout. On découvre ces talents. Alors on découvre ou redécouvre les talents d'un Gaxot, d'un Brasillac, d'un Rebatté, mais on découvre peut-être pour la première fois, en tout cas avec les yeux que nous donne le recul de l'histoire, on découvre le talent d'un Lobreau, d'un Fontenoy, d'un Pierre Deille qui n'est pas connu en France jusqu'à aujourd'hui. on redécouvre les dessins d'Hermann Pohl. Je trouve que ce qui est assez fascinant dans l'histoire de Je suis partout, c'est qu'il y a deux histoires. Il y a l'histoire immédiate de Je suis partout, ce journal conservateur créé par les éditions Artem Fayard. Chaque éditeur avait son journal qui était le support de ses auteurs, quelque part, et puis qui se radicalise, qui ensuite rompt avec Artem Fayard, et puis on voit le Je suis partout de Gaxot, et ensuite le Je suis partout de Brasillach, et enfin le Je suis partout de Rebatté, disons grosso modo, il y a trois étapes dans l'histoire de Je suis partout. On a cette histoire-là, et puis on a l'histoire des idées, vues à partir de 73 grâce à Dieudonné, et aujourd'hui grâce au travail de Philippe Dugues et de M. Gillier. C'est ce travail où on découvre que c'est une somme de talents, en dehors de la notion des enjeux politiques de l'époque, c'est vraiment une somme de talents littéraires et de talents dans l'éclectisme des préoccupations. On l'a vu avec le rebatté de critique de cinéma, mais on peut le voir aussi avec les critiques de théâtre. On peut le voir, alors je ne sais pas si le travail qui a été fait le montre bien, mais les critiques de théâtre de Je suis partout, les critiques littéraires,
il n'y en a que quelques-unes.
Les critiques littéraires, les critiques musicales de Queroy, c'est assez extraordinaire que... moi, je crois que... je ne vais pas monopoliser la parole, mais juste le fait que quelques personnages comme Brasillach ou comme Rebatté aient travaillé dans ce journal a attiré à eux des gens d'une qualité vraiment remarquable. Et c'est ce qui fait l'originalité de Je suis partout quand on l'étudie 30 ans ou 50 ans plus tard.
Alors, Pierre, alors, je ne sais pas, Gillier, Gilliette, on dit comment ?
Oui, Juliette, peu importe.
Gilliette, hein ? Ouais. Okay. Donc, Pierre Gilliette, ça vous est venu comment vous...
Mais je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Francis Bergeron, qui est très juste. Après, ceci dit, je pense que Je suis partout, pour les auditeurs les plus jeunes, ça n'a pas surgi de nulle part. C'est des gens qui étaient, que pour reprendre le titre d'un essai célèbre, des dissidents de l'Action française. Et sans Action française, il n'y aurait pas eu de Je suis partout, je pense, parce que, voilà, Gaxot, mais bon, Brasillach...
Artem Fayard lui-même.
Oui, voilà. Il y avait Candide qui était aussi oui. beaucoup de gens de Je suis partout au tout début, écrivait à la fois un peu dans Candide et dans Je suis partout, et Philippe et Francis Bergeron le diront mieux que moi, mais voilà, c'est aussi on peut dire des déçus, même si au départ ils sont très prudents, surtout Gaxot encore plus, mais c'est quand même des déçus de l'Action française, mais qui ont été quand même formés et qui avaient beaucoup d'admiration pour Maurras.
Brasillach ne cesse de rendre hommage oui. en permanence à Maurras.
Ouais. Moi je serais plus nuancé, ce sont pas forcément des déçus, ce sont des gens qui sont dans la mouvance de l'Action française, ça c'est sûr, qui ont été formés par l'Action française, tous Thierry Molnier, Gaxot, Brasillach, c'est évident, et ces gens-là vont évoluer avec l'évolution de l'histoire contemporaine.
C'est vrai pour Brasillach, mais pour Rebatté, ça n'est pas le cas. Il a été beaucoup plus dur sur
moi. C'est moins pour Rebatté, bien sûr. Et on voit bien dans les décombres, il est extrêmement virulent à l'égard de Maurras. Mais globalement, ce qui est vrai, c'est que l'Action française a été une école formidable pour des jeunes talents dans les années, je dirais, sur presque 50 ans d'histoire de France. Et qu'il était assez naturel qu'un journal de droite conservatrice au départ, puis de droite révolutionnaire, si on peut dire, ensuite, est attiré des jeunes gens qui, tous ou presque, étaient passés par l'Action française. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient déçus de l'Action française, mais simplement, ils avaient évolué. Et puis on a cette montée des dictatures. Il ne faut pas oublier aussi que Je suis partout est d'abord un journal de politique étrangère.
Tout à fait.
Et donc, qui s'intéresse beaucoup au monde et à l'Europe. Et qu'est-ce que c'est que l'Europe dans les années d'avant-guerre ? C'est l'Europe des dictatures. Dictature bolchévique, dictature nationaliste, dictature populiste. Et puis on a la même chose évidemment en Amérique latine, on a la même chose un petit peu partout.
Oui, par exemple, vous avez relevé la mort de d'Atatürk, par exemple,
oui.
qui est une espèce de reportage
ouais.
absolument passionnant.
Mais il y avait des reportages. Après, je vais laisser la parole à Philippe quand même. Mais il y avait des reportages. Il y a des reportages en Espagne. Il y a Brasillach. Bon, ça c'est plus tard, mais même avant la avant-guerre. Donc voilà, l'Espagne. Il y a un hommage de pour qu'Audrey Hanou de rebatter, à Tatour, que c'est vrai que c'est très vrai ce que dit Francis Bergeron. Au départ, c'était un, je parle vraiment au tout début, hein, 32, mais ça allait rester, c'était un journal qui consacrait beaucoup de pages sur la politique étrangère, oui, quoi. Oui, et qui reprenait même des articles ou des dessins de la presse étrangère.
Voilà. Alors ça vous est venu comment, l'idée?
Bah, l'idée, c'est que bah, moi, j'admirais déjà tous ces gens-là. Donc, moi, si vous voulez, je n'ai que 42 ans. Donc, aujourd'hui, si même, je crois qu'il y a deux ou trois collections uniquement accessibles en France, une à Aix, une à l'Institut Temps Présent à Paris. Enfin, il y a très peu de collections. Et j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Duc, qui avait une collection quasi complète de ça et de bien d'autres titres. Et donc, je lui ai demandé, j'ai dit, écoutez, c'est un vieux rêve. Et c'est vrai que je tenais, alors je n'ai pas repris les chroniques de cinéma par courtoisie pour Philippe Dugue et puis pour Pardès aussi, qui a été mon éditeur. Donc après, j'ai essayé quand même, voilà, de ce que disait très bien Francis Bergeron, de faire ressortir aussi qu'il n'y avait pas que la politique et la politique étrangère. Il y avait un souffle et une richesse culturelle que j'ai voulu vraiment mettre en avant. Et je sais que malheureusement, j'ai dû, parce que je ne pouvais pas faire un format je peux pas faire 2000 pages, j'ai dû couper des choses auxquelles je sais que Philippe, il vous en parlera, était attaché.
C'est déjà formidable d'avoir fait de pages.
Pas tout à fait 700.
Mais je pense qu'il y en a un deuxième, un second volume. Enfin, bon, déjà.
De Je suis partout, c'est formidable. Voilà. Et c'est une goutte d'eau dans un océan de talent, ça c'est sûr.
Oui, ça, c'est exactement.
Alors, je rappelle que je reçois ce soir Francis Bergeron, qui vient de publier une bibliographie de Maurice Bardèche aux éditions Pardès, et Pierre Gilliette et Philippe Dugue, qui co-signent, on va s'y simplifier.
Non, moi j'ai fait la secrétaire.
Une anthologie. Ne soyez pas, parce qu'on a l'impression que les deux étant modestes, personne n'a travaillé, or c'est un énorme travail. Donc une anthologie des meilleurs textes de Je suis partout, paru de 1932 à 1944. Alors, tous les trois vous pouvez répondre. Bon, je crois que quand même il faut resituer, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, en quelques mots quand même, Je suis partout, parce que pour nous, quand on dit Je suis partout, on a déjà tout dit, on peut même faire des mots d'humour, etc. Il y avait même, par exemple, à une époque, c'est Guillaume Fay avait mis J'ai tout compris, mais c'était un clin d'œil à Je suis partout, c'est la même chose, etc. En tout cas, pour un certain nombre d'auditeurs, je pense qu'il faut resituer dans le temps ce que c'était que Je suis partout.
Alors, si vous permettez, en tant qu'aîné, malheureusement, de cette assistance et ayant les souvenirs les plus anciens, je vais essayer de resituer une histoire, je dirais, dont j'ai presque vécu la fin. Hein, j'oublierai jamais l'irruption de mon père un jour à la table du petit déjeuner de la famille, disant « Ils ont fusillé Brasillac ». C'était donc le 6 février 1944.
Et 45,
bien sûr. Et ça m'a fait une impression ineffaçable. Hein, j'étais pourtant pas vieux, mais le nom m'était familier. Donc, c'est une histoire que j'ai pu reconstituer et suivre à la trace. Je suis partout. Finalement, aujourd'hui, c'est devenu le symbole honni, exécrable et exécré de la collaboration du fascisme français, de l'antisémitisme français. Et si l'on voit les choses de près, tout ceci cristallise sur quatre ou cinq noms. Hein, Brasillac, Rebatté, Pierre-Antoine Cousteau, le frère du célèbre commandant, Alain Lobreau, et c'est à peu près tout. Les autres sont déjà moins connus. Il y a une lettre très émouvante de Suzanne Bardèche, reproduite dans les lettres écrites en prison, où elle dit à Robert, qui attend, je crois, sa grâce à ce moment-là, qu'on espère, toutes les démarches qui sont entreprises, le bon accueil rencontré dans une bonne partie des milieux littéraires de l'époque, mais tout le monde disant, mais pourquoi votre malheureux frère est-il allé s'acoquiner avec cette sinistre bande, hein? Alors la sinistre bande, c'est les noms que je viens de prononcer, plus deux ou trois autres oubliés, s'il y avait Claude Jeantet, frère de...
Et Lesca aussi.
Charles Lesca.
Voilà.
Jean qui était aussi ailleurs, dans d'autres publications.
Oui. Voilà. Mais les frères Jeantet, eux, venaient aussi de l'Action française, de la Cagoule, enfin...
Bon, Soupeau.
Tout ça, c'était la sinistre bande. Hein. Alors, des gens dont on l'a dit, en effet, beaucoup, étaient de jeunes maurrassiens, hein, tout simplement, non moins des, pas des dissidents, mais des cadets de Charles Maurras qui trouvaient que le patron avait vieilli, que sa pensée ne correspondait peut-être plus tout à fait au problème du jour, qu'il ignorait un certain nombre de réalités politiques nouvelles, dont notamment l'avènement des dictatures. Petite parenthèse, le dernier livre de Jacques Bainville s'appelle « Les dictateurs ».
Et trois chapitres ont été écrits voilà. par Brasillac.
Et il était tellement malade quand il n'a pas pu... Il est mort avant d'avoir achevé le livre. Et les derniers chapitres ont été écrits par Brasillac et rebattés. Hein, l'un comme l'autre. Leur nom n'apparaît pas au générique, comme on dirait au cinéma, mais ils sont les auteurs de... Robespierre, Salazar, Hitler et Mussolini, je crois. Donc, ces jeunes maurrassiens, beaucoup plus ouverts et attentifs et moins sourds, si je peux me permettre, que le patron, au bruit et au remous du siècle, avaient ouvert les yeux, découvert d'autres réalités et donc éprouvaient le besoin de se regrouper entre eux pour parler d'un certain nombre de sujets sur lesquels ils étaient d'accord. Et le noyau de Je suis partout, il y a deux époques dans Je suis partout. Il y a en effet les débuts où c'est le grand hebdomadaire d'information internationale voulu par Artem Fayard.
Gaxot.
Et en 36, il se passe plusieurs choses. Avènement du Front populaire en France et cristallisation de l'attention des milieux nationalistes français sur la politique intérieure. Hein. Alors là, ça devient frappant. Départ de Gaxot qui passe le relais à Robert Brasillac, qui se retrouve pratiquement du jour au lendemain polémiste politique, ce qu'il n'avait jamais été pratiquement jusque-là.
C'est un journaliste littéraire. Hein.
Oui, c'était le critique littéraire d'Action française, c'était le critique de cinéma de la revue universelle d'Henri Massis et Jacques Bainville.
Il a fait un peu le trajet inverse de Daudet.
C'était... Oui, mais... Je dirais en même temps, ces choses-là allaient de soi pour des esprits cultivés dans ces générations. Hein. La culture générale, les curiosités littéraires, artistiques et historiques et donc politiques, finalement, ça ne faisait qu'un. Hein. C'est une tradition qui remonte peut-être au XVIIIe siècle, en tout cas. Un des plus beaux textes que je connaisse qui l'établissent, c'est le texte de Drieu-La Rochelle sur Diderot dans le tableau de la littérature française de l'ANRF. Hein. Et il dit que Diderot fixe le type de l'intellectuel, l'homme de lettres, qui s'intéresse aux choses politiques. Donc, tout ceci se met en place à ce moment-là. Et c'est l'œuvre essentiellement donc de Brasillac, qui est rédacteur en chef du journal à 27 ans. Hein, je sais bien que c'était un brillant normalien et qu'il avait déjà un nom comme jeune écrivain avec une demi-douzaine de livres
publiés. 21 ans, son premier livre.
Publié, oui, son premier roman publié à 21 ans, parce que les premiers écrits, c'est à 16 ou 17, mais cela, on n'en connaît que des fragments. Donc, jeune romancier, essayiste, livre inoubliable sur Jeanne d'Arc avec une préface, plus qu'une préface, là, plus longue que la mienne, pas tellement, mais qu'on devrait connaître par cœur, car c'est le texte définitif sur Jeanne d'Arc, si l'on n'est pas spécialiste là non plus. La première histoire du cinéma écrite avec Maurice Bardèche en 1935. Donc en 36, c'est déjà un personnage, et il va se lancer dans la politique, et c'est un peu le hasard qui l'y mène, car parmi les erreurs qui m'exaspèrent et que commettent les esprits bien intentionnels aujourd'hui, c'est d'en faire un fasciste et un hitlérien dès le 6 février 1934. Pas du tout. Le 6 février 1934, il est à la création d'une pièce de Louis Jouvet. Il sort du théâtre sur le coup de minuit, il voit flamber un autobus place de la Concorde, il entend quelques remous et il rentre chez lui faire son feuilleton dramatique parce que c'est ça qui l'intéressait. Et on dit qu'il découvre Nuremberg et les beautés des cathédrales de lumière, du docteur Goebbels et d'Albert Speer à Nuremberg vite après, en 35. C'est faux. C'est en 37 seulement.
C'est 100 jours chez Hitler. Ouais.
Pour la première fois, hein, il en fait un compte-rendu dans la revue universelle de Massis, Bainville est mort à ce moment-là, qui est un compte-rendu d'un bon nationaliste français, qui admire ce qu'il y a d'admirable, notamment au point de vue esthétique. Hein, le cinéphile qu'il était a été très sensible à la mise en scène de Nuremberg, qui était grandiose. Mais sur le plan de l'observation politique, c'est plein de critiques de toutes sortes et de toutes natures, dont certaines sont assez loin. Donc, ce n'est que petit à petit, malgré lui, qui va devenir ce polémiste.
Philippe, vous pouvez dire que ce fameux reportage sans jouer Hitler, il va le recycler et le compléter dans les sept couleurs.
Dans les sept couleurs d'abord, et pour finir, dans notre avant-guerre, où il y a une version courte, et adoucie, parce que justement, les notes critiques des versions d'avant-guerre n'étaient plus publiables en 41, date de parution de notre avant-guerre, où il y avait des choses qu'il a fallu atténuer, et ce sont les seules qu'on retient. Ce qui fait qu'on en fait une sorte d'hitlérien toujours, pas du tout.
Alors que, parce que, excusez-moi, parce que je veux pas vous couper, mais véritablement, quand on lit les textes, bon, on voit l'évolution, évidemment, de ce journal dont on va parler avec le « Nous ne sommes pas des dégonflés » à la fin, le meeting... sur l'espérance est fasciste, enfin on a droit à tout. Bon, mais au début, enfin de toute façon, les textes restent passionnants.
Oui. Bah, bien écrit, le talent reste.
Bien écrit. Non, mais c'est toujours aussi bon jusqu'à la fin. Bon, je suis désolé. Mais ce qu'il y a, c'est que ils sont d'une extrême modération. Au début.
Enfin, au début, oui.
Au moins jusqu'en 40, ils sont d'une extrême modération. Ils sont, ils annoncent exactement d'ailleurs comme Maurras l'a fait, l'inquiétante montée de la puissance allemande. C'est pas du tout un journal fasciste, haineux, etc. C'est effectivement un journal de reportage de grande qualité. Ça transparaît d'ailleurs pas dans l'ouvrage, parce que ça pouvait pas être pareil. Il y a les plus grands romanciers aussi qui donnent leur feuilleton dedans.
Marcel Aimé, Barjavel.
Voilà, donc c'est tout.
Giraudoux, même.
Il y a la quasi-totalité des intellectuels, quoi.
Oui, Emmanuel, si vous permettez, il faut insister là-dessus, parce qu'il y a une chose qui surprend et qui laisse incrédule les gens d'aujourd'hui qui voient dans Je suis partout qu'un journal politique, c'est que justement, une bonne partie du succès du journal sous l'occupation tient à sa qualité littéraire. Car jusqu'à la guerre, c'est un journal relativement modeste comme tirage. Il fait entre 60 et 70 000 exemplaires, ce qui pour l'époque n'est pas considérable. Le grand journal de l'époque, Gringoire. C'est Gringoire, qui tire à 600 000. Hein, à la grande époque d'Henri Béraud, sous le Front populaire, Gringoire fait 10 fois « Je suis partout ». Que se passe-t-il à partir de 40? Gringoire et Candide sont en zone libre. Il faut se rappeler ça toujours, qu'il y a deux presses, l'une en zone libre et l'autre en zone occupée, et qui n'ont pas le droit de passer chacune dans l'autre zone. Hein. Donc, Je suis partout bénéficie de l'absence de ses grands rivaux Gringoire et Candide, et passe là de ses 60 000 exemplaires de l'avant-guerre à 300 000 exemplaires à la fin de l'occupation. Et il est en plein essor à ce moment-là. Hein. Claude Maubourguet, qui est le dernier survivant du journal, qui était son dernier secrétaire de rédaction et qui était le neveu de Charles Lesca, directeur du journal de Houtan-Bouge, je crois. Claude Maubourguet me racontait qu'il avait le souvenir d'une petite fête qu'ils avaient faite au journal au printemps 44, hein, alors peut-être à la veille du débarquement, ou voire après, pour fêter un sommet à 350 000. Hein,
une belle entreprise qui s'arrête.
Alors, une des raisons de ce succès, c'est bien sûr l'absence de concurrents, mais c'est aussi la qualité exceptionnelle du journal. Et en effet, l'art de Brasillac d'attirer des noms de valeur. Hein. René Barjavel, qui aujourd'hui reste un nom notamment de la science-fiction française, a publié son deuxième roman, Le Voyageur imprudent, dans Je suis partout, en 1942. Travelling, qui est un des meilleurs romans de Marcel Aimé, hein, la satire du Front populaire, est paru dans Je suis partout en 1941 ou 42, je ne me rappelle plus, en feuilleton intégralement. Léocadia, une des plus délicieuses pièces roses de la première série d'Anouilh, en feuilleton dans Je suis partout. Lavarande, Frégnaud...
Jacques Perret.
Et Jacques Perret, pas après l'armistice.
Il a fait des articles, Perret.
Jacques Perret, c'est un collaborateur assidu. Il y a d'ailleurs un très bon article reproduit dans le livre, dans notre livre. Jacques Perret a disparu, lui, après 40. Mais, par contre, Frégnaud et Lavarande, qui sont des grands noms, sont des fidèles. Hein, je suis partout.
Céline lui-même a publié quelques lettres.
Oui, il y a une lettre.
Drieux.
Céline. Non, Céline aussi.
Céline. Ah, Céline, oui. Céline envoyait des lettres. Il n'envoie pas d'article, il envoie des lettres.
Monterland aussi une lettre.
Souvent des lettres d'engueulade, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, on le sait maintenant avec les lettres de guerre, lettres qui sont coupées parce qu'impubliables.
Et alors, il y a aussi des articles de Drieux, pas des masses, mais enfin, il y a quelques bons Drieux dans la période.
Comment est-ce que vous avez fait votre sélection? Parce que c'est, vous avez d'abord tout lu ou dès le début sélectionné des choses?
Non, j'ai tout lu parce qu'il faut, si je me trompe, c'est 12 pages, hein, un numéro, donc c'est quand même pas très, très copieux. Et après, moi, je l'ai, bon, après, Philippe répondra, mais moi, j'ai fait aussi un peu dans ce qui m'intéressait, moi. C'est-à-dire que c'est un peu subjectif. C'est-à-dire que Philippe m'a reproché d'avoir mis trop de rebattés.
Il y a beaucoup de rebattés, non, mais il n'y a plus que du rebatté.
Ouais.
Il y a moins le choix à la fin.
Oui, voilà.
Le choix est excellent quand même, même s'il est limité. Oui. Non, mais les textes sont toujours. Parce que c'est difficilement.
Moi, j'adore plus rebatté que Philippe, on va dire, voilà.
Non, mais certains textes sont difficilement acceptables aujourd'hui, mais il fallait les publier. Parce que
c'est un document.
C'est un véritable document. Mais bon, vous êtes parce que.
Non, mais après j'ai veillé à ce qu'il y ait un équilibre. Mais c'est vrai que bon, oui, il y a.
Alors vous en avez d'autres en réserve encore?
Oui. Alors je vais peut-être publier une anthologie du droit de vivre de Le Cache avec une préface d'Emmanuel Ratier.
Non, mais bon, c'est faisable. Hein.
Non, ça ne sera pas.
En tout cas, ne sera pas du même.
Voilà.
Déjà, il y a un parti pris de commencer plus tard, je crois.
32.
Non, ça commence. Il y a toute la période du journal. Bon, après, c'est vrai que la période, on va dire, de la guerre est plus fournie que la période des premières années. Mais j'ai veillé à ce qu'il y ait toute l'époque, tout le prisme, pour qu'on puisse voir justement cette évolution.
Non, mais quand on voit dans le second volume de Duc Donald et 700 rédacteurs, oui, il y a 700 rédacteurs. C'est absolument colossal. Oui. C'est une pépinière de talent, quoi.
Oui.
Alors, est-ce que Maurice Bardèche a écrit?
Oui, bien sûr.
Il a écrit quelques articles sur l'Espagne.
Oui, quelques reportages sur l'Espagne et puis quelques critiques de cinéma, soit avec Robert Brasillach, soit tout seul. Mais il a peu publié. D'ailleurs, globalement, Bardèche a peu publié jusqu'à la libération.
C'est la mort de son frère.
C'est la mort de son beau-frère,
pardon, qu'il a révélé.
Qui l'a rendu hystérique, je dirais.
Non, mais nous sommes d'accord, mais quand même, il aurait pu écrire. Puisqu'il maîtrisait parfaitement un
scandale.
Oui, non, mais il aurait pu plus écrire. Vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui?
Non. Objectivement, non. Et puis, il était mort quand j'ai fait mon film.
Mais je suppose que. Oui. Non, mais ça, j'ai bien compris. Mais vous le connaissiez avant.
Oui, un petit peu.
Je l'ai rencontré à diverses reprises. Bon, c'est des questions qu'on aurait pu poser sans forcément avoir l'idée de publier une biographie.
Il le raconte notamment dans ses souvenirs. Il n'était pas. Il trouvait que Robert était assez imprudent. Il lui avait dit, mais est-ce qu'on peut vraiment tout écrire comme ça pendant l'occupation avec les Allemands? Robert lui avait répondu, la situation qu'on vit, nous l'avons dénoncée. Nous avons prédit ce qui allait se passer. Et finalement, nous sommes les victimes de ce qui se passe. On ne nous a pas écoutés. Tout ce qu'on avait écrit dans Je suis partout, c'est bien ce qui s'est produit. La défaite, l'occupation. Et donc, il est tout à fait normal et légitime qu'on puisse s'exprimer aujourd'hui pour défendre les idées qui sont les mêmes que celles qu'on défendait avant-guerre. Et lui, Bardèche, avait une vision un peu différente. Il disait, c'est pas prudent, voilà.
Oui, non, je veux dire, il aurait pu écrire en gros de 36 à 40, quoi, Bardèche.
Il écrivait peu.
C'est un littéraire, au départ.
Il y avait de la critique littéraire, c'est vrai. C'est pour ça. Il y a des textes d'hommage, par exemple, de Chimie sur
et il écrivait.
Le Drieux vous en reproduisait en hommage à je ne sais plus quoi le terme.
Non, mais je crois que j'ai la réponse.
Hein, il aurait pu écrire sur Stendhal,
ou Flaubert.
Proust.
Hein. Bardèche a fait pas mal d'articles dans les petites revues dans leur jeunesse, hein, avant 25 ans. Et il a tenu la critique de cinéma assez longuement dans 1933, 34, 35.
Hein, un de plomb.
Un hebdomadaire qui a capoté au bout de 3 ans. Et là, il y a de très bons articles de lui qui mériteraient d'être pris. Je pense qu'avec un ami, là, nous allons y travailler un de ces jours. Ensuite, il se consacre essentiellement à son métier de professeur, puisque tout de même, il est professeur, et à la rédaction de sa thèse sur Balzac, qui reste une référence encore aujourd'hui. Hein, moi, j'ai une petite fille qui était en hypocagne dans un grand lycée parisien il y a 2 ou 3 ans, et le professeur français leur dit à propos de Balzac, lisez Balzac romancier de Maurice Bardèche, c'est l'ouvrage de référence en la matière, tous les autres ont pompé dedans. Évidemment, personne ne le dit jamais, parce que Bardèche, c'était le beau-frère de Robert Brasillach. Qui de vous connaît le nom de Robert Brasillach? personne n'a levé le doigt.
Même pas votre petite fille?
Et non. Et je lui ai dit, tu as très bien fait. C'était pas la peine de tirer l'attention sur le fait qu'il y avait un grand-père qui venait sortir un livre sur cet auteur sulfureux. Donc je suis très content qu'elle ne l'ait pas fait. Mais par contre, j'étais ravi et c'était quand même un très bon lycée, car le professeur de grec leur a cité l'anthologie de la poésie grecque avec en disant c'est le meilleur livre sur la question, mais on ne peut pas le dire parce que son auteur s'appelle Robert Brasillach. Hein, alors, donc, Bardèche, lui, s'occupe de son Balzac pendant toutes ces années d'avant-guerre, et dans l'Occupation, il y a, je crois, exactement 3 ou 4 articles de lui, un sur Balzac, un sur Stendhal, un sur le cinéma futur, rêverie sur un cinéma, et peut-être un quatrième, mais je n'en suis même pas sûr. Hein. Donc, il n'est pas collaborateur, je suis partout, pratiquement à aucun moment, sauf épisodiquement, ou pour des extraits co-signés avec Brasillach, des histoires de la guerre d'Espagne et d'histoire du
très
cinéma.
Très exactement, il y a 2 articles sur l'Espagne, voilà. En 38.
Ouais.
Il y a des études sur le cinéma, donc en collaboration avec Brasillach.
C'est ça. 39. C'est des bonnes feuilles de la réédition de.
En 41. Ouais. Et puis effectivement une rêverie sur un cinéma futur et 2 articles littéraires. Balzac et Stendhal. Oui, oui. Au total, il y a moins d'une dizaine d'articles.
Oui, non, il était tout à fait extérieur à la sinistre bande hein, dont on parlait à l'extérieur, qui en gros se ramène pour nous aujourd'hui à 3 ou 4 noms: Brasillach, Rebatté, Cousteau. Et c'est un peu même Lobro, personne ne sait plus qui c'est. Tous les auteurs de théâtre qu'il avait éreintés si joyeusement étant tous morts. Truffaut lui avait fait une petite célébrité posthume sous un vague pseudonyme dans son film Le Dernier Métro. Mais même ça commence à être oublié et les nouvelles générations ne savent bientôt plus qu'est Truffaut non plus. Pour ce qui est de Lobro. On peut d'ailleurs, une chose que je tiens à dire. Un jour, j'ai parlé avec Maurice Bardèche, car moi, j'ai malheureusement là aussi eu l'antériorité. Je l'ai assez bien connu à 2 ou 3 reprises. Je lui disais, voyons, finalement, dans tout ça, qui étaient les amis de Robert? Parce que quand nous en parlions, on disait toujours Robert, ce qui m'amusait. Il m'a dit, bien sûr, il y avait Rebatté. Il y a eu Cousteau avant Cousteau le départ, oui, mais après la rupture avec Cousteau, ça laissait des traces et des blessures. Georges Blond, bien entendu, mais qui lui était d'avant, hein, qui était un ami du temps de l'école normale sup.
Claude Roy,
c'est lui qui l'a mis. Et je lui dis, hello, bro. Je lui dis, il fait la grimace. Ah, je lui dis, vous aussi, j'ai l'impression que Lobro était un personnage assez peu sympathique. Et il m'a répondu, Philippe Hugues, vous pourriez dire beaucoup plus fort et vous auriez raison.
Il s'est fâché très fortement avec Béraud également.
Voilà.
Et
Béraud, le personnage était douteux.
Hein. Mais en même temps, ses romans se lisent encore.
Oui.
Moi, je trouve qu'il y a du talent chez Lobro.
Le talent est hors de doute, hein, et notamment ce qu'il a écrit aussi, La Terreur Rose sur le Front Populaire, est assez délectable. Ouais. Et les chroniques dramatiques qui ont fait sa gloire pendant quelques années se lisent encore avec délectation. Mais le personnage était assez douteux, assez peu sympathique, et je renvoie aux mémoires d'un fasciste de Rebatté, qui en fait un portrait au vitriol et que je crois tout à fait correspondant à la vérité. Bon, le malheureux est mort en exil, paix à ses cendres.
Est-ce que Céline était sympathique?
Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que je reçois ce soir Francis Bergeron pour sa biographie de Maurice Bardèche qui vient de sortir aux éditions Pardès, et Philippe Dugue et Pierre Gilliette pour Je suis partout, anthologie 1932-1944 qui vient de sortir aux éditions Canim-Pierre Gilliette qui s'appelle les éditions Aouda-Izarn. Et donc, Philippe Dugue et Francis Bergeron signeront ces 2 ouvrages à Librairie Factac et 4 rue de Clichy, Paris 9e, samedi prochain, de 14 à 18h. Et je ne saurais trop recommander, effectivement, comme j'ai dit, qu'il y avait relativement, à cause de problèmes de petit tirage d'éditeurs, que les personnes intéressées réservent leur ouvrage en appelant la Librairie Factac au 01 48 74 59 14. 01 48 74 5914, qui est ouvert tous les jours de midi à 20h. Voilà. Alors, on va continuer à parler de Juste Partout, mais on va quand même parler un peu de Maurice Bardèche.
Alors là, ça nous amène que, après, voilà, en fait, c'est, après parce que cette période-là.
C'est un peu la,
c'est ça qui est voilà, dommage, c'est, peut-être.
Non, mais on va revenir sur Je suis partout, mais il faut quand même un peu aborder la question. Donc Maurice Bardèche, bon, c'était le beau-frère de Robert Braziac, puisque Maurice Bardèche avait épousé la Suzanne, la sœur de
Robert.
La sœur de Robert. Et lui, Bardèche, est décédé, j'ai plus la date, en 1998. Donc c'est quelqu'un qui a pu produire, qui n'a pas été fauché par la mort, oui, comme Robert Braziac. Et en fait, il va reprendre un peu le flambeau, enfin, il reprend le flambeau de son beau-frère.
Complètement, parce que si on prend toute la période qui va jusqu'en 1944, qu'est-ce qu'on a de politique, je dirais, chez Bardèche? Pas grand-chose. D'abord, Bardèche n'est pas un homme de droite, et ce n'est pas un homme de l'Action française. Bardèche vient d'un milieu républicain, hussard noir. Son père était un petit fonctionnaire radical socialiste, assez proche de la franc-maçonnerie sans doute. Et il monte à Paris parce qu'il est un très très bon élève, un élève extrêmement brillant. Et il se retrouve, lui, le petit Berrichon, il est Berrichon, il est du Cher.
Tout tourne autour du Berry.
Bah, qu'est-ce que c'est que la France? C'est le Berry avec un
c'est l'emphalos du monde. C'est pas Delphes, c'est le Berry.
Le Berry avec un peu de terre autour. Hein. Et il va tomber par hasard, mais par le plus grand des hasards, il va tomber sur un petit groupe de jeunes gens, Talagrand, Braziac, et Roger Vaillant.
Jacques Talagrand.
C'est évidemment Thierry Monnier. Et il va être happé par celui des trois qu'il trouvait le plus impossible, le plus improbable, le plus ridicule peut-être, c'est-à-dire mal fagoté, et puis en faisant beaucoup, très extraverti. Et c'est finalement lui qui va le séduire. Ils vont devenir amis jusqu'à la mort, je dirais, une amitié. Je ne connais pas d'autres exemples dans l'histoire de la littérature française, en tout cas, d'une amitié littéraire de cette nature qui se prolonge au-delà de la mort. C'est quand même très, très exceptionnel.
Vous permettez, j'ai failli vous dire ça l'autre jour à une soirée des ARB, des amis de Braziac, où nous étions tous les deux et où Francis a fait une brillante conférence sur le sujet. Je vois un précédent qui n'est pas entièrement comparable à l'arrivée, faute de temps, mais au départ, qui est probablement le modèle conscient ou inconscient de Bardèche et Braziac, c'est Alain Fournier et Jacques Rivière. Oui, Jacques Rivière épousant Isabelle Fournier, la sœur de son meilleur ami. Hein. Or, c'est dit dans notre avant-guerre, Braziac, Bardèche et tout, étaient les grands lecteurs de la correspondance Fournier-Rivière qu'on a publiée pendant qu'ils étaient à Louis-le-Grand, hein, vers 1925. Et je pense qu'ils ont voulu plus ou moins, peut-être au départ était-ce un jeu, mais reproduire ce modèle, Robert, Maurice et Suzanne, refaisant ce qu'avaient fait Alain, Jacques et Isabelle.
C'est incroyable, ils partent tous les trois, ils partent en voyage de noces ensemble. Oui, oui. Est-ce qu'on connaît le cas de deux amis qui partent avec l'épouse de l'un des deux, en voyage de noces? Ils habitent ensemble. Ils vont prendre deux petits appartements rue Rateau et ils vont les réunir. Et on va avoir Suzanne et puis son époux et puis Robert. Et Robert et Maurice travaillent ensemble. Et Suzanne et Maurice ont une vie de couple. C'est très exceptionnel.
Et si tu peux me permettre, sur ce qu'on vient de dire là sur Fournier, il y a un passage, alors je ne sais pas s'il est dans le livre honnêtement, où justement Braziliac, qui évidemment Molne c'est Braziliac, hein, où il dit justement, à un moment, en parlant de Malraux, il dit, nous ce qu'on attend justement dans les années 30, c'est le grand Molne plus la politique, c'est-à-dire en fait une sorte de mix entre le grand Molne et Malraux, c'est-à-dire la dimension poétique et littéraire et la dimension politique.
Mmh, oui, c'est intéressant ça.
Ça c'est vraiment...
Et donc, ce que je veux dire, c'est que Maurice Bardèche, jusqu'à la mort de Braziac, n'a pas d'engagement politique. Oh. Il écrit certes une histoire de la guerre d'Espagne avec Braziac, mais d'abord, il n'en écrit que le tiers, à peu près. De même, dans l'histoire du cinéma, je crois qu'il n'écrit que le tiers.
Un petit tiers, oui, c'est tiers. Ça.
On voit bien que la locomotive, c'est Brasillach. Brasillach a une grande admiration pour Bardèche, pour sa réflexion, sa profondeur, son sérieux. Mais Brasillach est vraiment la locomotive du couple littéraire, si je puis dire. Et Brasillach entraîne Bardèche dans un certain nombre de ses aventures politiques. Mais on ne peut pas dire que ce soit une adhésion de Bardèche aux valeurs et aux thèmes de Brasillach. C'est plutôt une adhésion de Bardèche à la puissance de conviction de Brasillach, à sa joie de vivre et à sa capacité à embellir la vie, en quelque sorte. Vivre avec Brasillach, c'était quand même assez sympa. C'était le théâtre, le cinéma, la musique, la littérature. C'était oui, une locomotive incroyable, ce Brasillach. C'est fascinant pour un jeune homme. C'est d'ailleurs un petit peu, ça me fait penser à un autre couple que j'ai traité il y a peu de temps, si je puis dire. C'est le couple Hergé de Grelle, de leur toute jeunesse, où on voit un... Et Bardèche le dit bien, c'est un berrichon introverti, scrogneux, sérieux, trop sérieux, complexé. Il est petit de taille, il ne se sent pas à l'aise à Normal Sup, à Louis le Grand, puis à Normal Sup. Il voit là des gens qui ont été reçus au concours général. Enfin, il se sent inférieur à ces gens-là. Il est d'un milieu très modeste, milieu social très, très modeste. Et donc après, il est simplement l'ami de Brasillach, l'ami que Brasillach a choisi, et il en est très très fier, très étonné même, et il le dit dans ses souvenirs écrits 50 ans après les événements.
Et alors,
participe pas à l'affaire de Je suis partout, à tous ces débats politiques, ce qui n'empêchera pas de se retrouver en prison, toute la famille de Brasillach.
Je suppose que vous avez retracé plus en détail la vie de Maurice Bardèche avec Anne Brassier pour l'émission de demain. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que, par exemple, quand Maurice Bardèche a lancé Défense de l'Occident, par exemple, qui est le principal journal dont il s'occupe, en fait, sa chose, c'est
bon, 52,
et qui est un peu le rendez-vous de la. De l'extrême droite française, intellectuelle un peu.
Au départ, c'est même plus que ça. Au départ, c'est la revue officielle d'un mouvement politique européen qui comporte les rescapés de.
Alors justement.
Rescapés de tout ça.
Voilà, justement, est-ce qu'il y a eu des anciens journalistes ou collaborateurs, chroniqueurs de Je suis partout, qui ont écrit dans Défense de l'Occident ?
Oui. Oui, bien sûr. À commencer par Cousteau et Rebatté. On trouve aussi Marc Cogier. J'en ai publié la liste. Mais l'essentiel de Défense de l'Occident, c'est d'abord une revue de politique étrangère dont Bardèche fait l'éditorial mensuel. Et les autres collaborateurs sont des étrangers. Et l'essentiel des collaborateurs de Défense de l'Occident après cette période-là, après la période mouvement social européen, ce sont plutôt des intellectuels français d'une nouvelle génération, des gens comme Paul Serrand, des gens comme Bernard Georges, puis après au début des années 60, l'équipe d'Europe Action, disons pour faire simple, Alain de Benoît,
Dorcival.
Alain Renaud.
Voilà. Et après, alors on a la génération d'ordre nouveau. Donc ce sont toujours des jeunes. En fait, ce sont très souvent des jeunes, disons. Il y a assez peu d'anciens. On voit la signature, donc de temps en temps, même Céline écrit une fois dans Défense de l'Occident.
Bon, il y a Georges Blond.
Oui, Georges Blond. Voilà. Il y a quelques anciens, je dirais qu'ils y sont tous passés, parce que Défense de l'Occident, c'est un petit peu comme Je suis partout, ou comme Gringoire. Ils y sont tous passés, ils y ont tous écrit. Même on trouve même Mauriac dans Défense de l'Occident. Mais ça n'est pas la revue qui a agrégé les rescapés de l'épuration, comme c'est a pu l'être Rarol, par exemple, oui. Voilà. Mais bien sûr, ils ont tous écrit dedans.
C'est vrai qu'on a retrouvé plus dans Je suis partout dans Rivarol, avec Ralph Soupeau qui signait Rebatté, Cousteau, jusqu'à sa mort.
Justement, Vous avez reproduit, ce qui fait toujours plaisir, le livre n'est pas extraordinairement illustré, mais enfin, il y a quand même...
À chaque date, il y a un dessin.
Voilà, il y a une série de dessins qui n'ont pas perdu de leur intérêt.
Non, et puis je crois que Francis Bergeon avait raison, ou Philippe Luc, je ne sais plus lequel des deux, a parlé, parce qu'on connaît tous Ralph Soupeau, évidemment, oui. Qui avait d'ailleurs été évincé de l'Action française, parce qu'il avait fait une Marianne qui ressemblait trop à Léon Daudet.
ne croyez pas que, comme nous le savons tous, oui. Qui est Ralph Soupeau, je propose justement que... Henri Dubos nous lise quelques oui, messages. Mais lisez-les.
Quatre messages qui sont arrivés pendant que vous parliez. Message de cet auditeur. Pourriez-vous nous parler de Paul Schack ? Notre auditeur, pour quelles raisons a-t-on fusillé Brasillach ? L'auditrice, Drie La Rochelle, a-t-il participé à Je suis partout ? Et enfin, ce message. Bonsoir, dit cet auditeur. Concernant Je suis partout, ce qui nous intéresse n'est pas les rubriques théâtrales, touristiques ou culinaires. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il disait sur le fascisme, l'hitlérisme, etc. Tout ce que vous nous dites jusqu'à présent, on peut en dire autant de l'Illustration ou du Figaro. Ça n'a rien de très spécial.
Il faudra qu'il lise le livre, alors.
Oui, mais donc, ça mérite une réponse.
Enfin, je voudrais juste finir sur d'un mot. Hein. Bon, Ralph Soupeau, bon, a priori, quand même, il y a beaucoup de gens qui savent qui c'est. Et on redécouvre dans ce livre d'autres illustrateurs, comme...
Herman Paul.
Voilà, Herman Paul, bon, qui est mort assez tôt, donc il n'a pas pu... C'était un peu l'un des vieux du journal. Et Herman Paul, il fait des très, très bons dessins, quoi. Il y a Gilles aussi... Herman Paul, pour vous donner un dessin par exemple, je vous en donne deux très rapidement. Il y en a un, c'est en 40 après la Divine Surprise. On voit un couple de un vieux couple, et on voit un type, un valet qui décroche un tableau de Léon Blum, et la femme du type lui dit, tu enlèves le tableau de Léon Blum, qui dit, oui, je vais accrocher celui du maréchal. Et il y en a un autre qui est assez bon aussi, où on voit une commission préfectorale, et on voit un juif d'Europe centrale qui arrive et la commission, les ronds de cuir lui disent naturellement, vous êtes d'une vieille famille française, et le type, le juif baisse la main, il dit ah. Donc voilà, tu veux dire, on dit Ralph Soupeau, mais Herman Paul, il avait la dent très dure, et je crois qu'il venait même
de l'extrême gauche.
Oui, de anarchisante, un peu comme Carandache.
Il a eu constamment du talent qu'il est destiné pour l'extrême gauche, la gauche, puis Je suis partout. Oui.
Soupeau aussi, il venait de...
Voilà, donc justement, bon, vous allez répondre, mais bon, on a parlé d'un certain nombre de textes, parce que j'insiste bien, c'est justement pour ça, d'ailleurs, on en parlera peut-être en fin d'émission, mais textes tous passionnants, tous bien écrits, remarquablement bien écrits, excitants, on a envie d'aller plus loin, de lire, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut le souligner, parce que c'est trop facile de traîner les gens, enfin les journalistes dans la boue de Je suis partout, c'était des très grands auteurs, beaucoup étaient des très grands écrivains, etc. Mais le recueil est extrêmement, évidemment, politique, puisque vous avez fait un choix, et donc il y a toutes sortes de textes politiques, et plus on avance dans le temps, plus ça devient dur, hein, plus ça devient, peut-on dire, franchement, extrémiste, très engagé, très très pro-allemand,
Enfin, j'ai tenu à ce qu'il y ait justement
collaborationniste.
Que les gens puissent se faire leur propre idée en mettant les articles qu'on cite mais qu'on n'a jamais lus, comme le fameux « L'Essai international contre la patrie » de Brasillach, que beaucoup de journalistes et d'universitaires citent sans avoir jamais lu. Enfin voilà, il y a le reportage de Brasillach à Catine. Voilà, je pensais qu'il fallait aussi mettre des textes dont on avait beaucoup parlé mais qu'on avait souvent jamais lus.
Oui, l'article que Pierre a très bien fait de retenir, celui sur l'Essai international, c'est celui qui contient la fameuse phrase toujours citée de façon tronquée sur les enfants juifs, hein, dont il faut se séparer avec les parents, s'en laisser les petits. Je voudrais faire une remarque sémantique à ce sujet. L'expression les petits choque beaucoup aujourd'hui, et j'ai vu dans les griefs qu'on fait à Brasillach sur cette phrase qu'ils traitent les juifs comme des animaux. C'est peut-être le sens que ça suggère aujourd'hui. À l'époque, pas du tout. Hein, les petits, c'est une façon de dire les enfants. Et dans la correspondance de Brasillach avec sa sœur et son beau-frère, quand il parle de ses neveux, il dit toujours « Vous embrasserez les petits de ma part, est-ce que vous serez avec les petits ?» Donc ça n'a pas la nuance un peu péjorative que certains prennent un malin plaisir à y voir ou y introduire aujourd'hui. Hein, les petits, c'est les enfants.
Puis justement, bon, le texte, donc, c'est replacé de cette formule et replacé dans son contexte avec la suite qui permet parfaitement des...
Oui, sauf que Brasillach, lui, il ne la connaissait pas.
Et Et justement, cette phrase a été encore ressortie dernièrement à la suite de la sortie de Jean-Marie Le Pen récente. Oui. On a dit, oui, mais Marzillac a écrit telle chose qui est absolument
scandaleuse, etc.
C'est toujours la même phrase.
C'est Pivot déjà.
Et c'est toujours la même phrase qui est toujours sortie de son contexte. Il suffit de lire l'ensemble.
Bernard-Henri Lévy, lorsqu'il est confronté à Bardèche, apostrophe.
La fameuse émission.
Aujourd'hui, il y a deux phrases qu'on sort pour justifier l'exécution, car il faut absolument qu'on ait eu raison de le fusiller. C'est ça, surtout qu'il est Titi, les autres. C'est cette phrase-là, en effet. Et puis, c'est la fameuse phrase « Nous avons couché avec l'Allemagne
oui,
et
les Soviens, les souvenirs nous ont resté doux. »
Dont je crois avoir quand même établi clairement dans mon petit livre que c'est une citation ou une allusion à une réplique du Siegfried de Giraudoux, hein, où il y a cette phrase « Oui, Siegfried, j'ai couché avec l'Allemagne. » Et il est évident que Brasillac était en train...
une citation littéraire, exactement.
Et oui, et qui était en train de relire Giraudoux, parce que l'auteur venait de mourir et il préparait un essai sur lui, avait cette phrase quelque part en mémoire dans la tête, et il l'a reprise à son propre compte, sans mettre les guillemets. Hein. Et les analphabètes d'aujourd'hui ne savent pas que, dans une phrase comme ça, il cite Giraudoux.
Non, mais de toute façon, Emmanuel le disait, c'est Brasillac, il ne faut quand même pas oublier que lui, il est parti parce qu'il trouvait les autres trop radicaux. Voilà, je veux dire, c'est pas lui qui est resté jusqu'au bout, c'est Cousteau, c'est Rebatté.
Cousteau, Rebatté.
Il a été fusillé, tout simplement parce qu'il s'est livré. Parce qu'on avait emprisonné sa mère, on avait emprisonné son beau-père, on avait emprisonné son grand-père, on avait emprisonné son beau-frère, qui étaient tous innocents, et donc il s'est livré en disant « Le martyr de ma famille va cesser si je me livre ». Et donc, se livrant, il a été livré à des bourreaux, à des épurateurs, et à un moment où on fusillait les écrivains. Car quelques mois plus tard, il n'aurait bien évidemment pas été fusillé.
Oui, oui, c'est le tort des premiers, Paul Charette.
Est-ce que la vraie raison, la raison fondamentale, c'est pas qu'il a été témoin oculaire des charniers de Catine, hein? Est-ce qu'on c'était pas un témoin
non,
dangereux?
Pas forcément, parce que d'autres ont été témoins. Je pense notamment à Malot qui a écrit, Pierre Malot, je crois, qui a écrit un livre là-dessus. Il a fait 5 reportages sur les charniers de Catine. Il a pris 5 ans de prison. Donc, en gros, raconter Catine, c'était un an par article, mais c'était pas forcément d'être fusillé.
Pardon, si vous permettez, il y a une autre raison, c'est qu'en décembre 44, au moment de son procès, c'est un des rares grands noms, un des rares gros gibiers qu'on ait sous la main.
Hein,
parce que tous les autres sont à Sigmaringen, ou en Espagne, ou partenaire, hein. On n'a ni Luchère, ni Rebatté, ni Cousteau, Drieux, lui, qui est différent, ni Chateaubriand, directeur de l'ALM, ni Céline, ni ça... Donc on en tient un, hein, et il faut absolument qu'on se le fasse.
Et Paul Schack, moins connu,
enfin, et Henri Béraud, oui, qui sera condamné à mort. Et alors là, moi j'ai...
C'était plus connu que...
Tout à fait. Ça c'est ma vieille théorie. Hein, De Gaulle très embêté, deux condamnés à mort, Brasillac et Béraud. Je peux pas les gracier tous les deux. Les communistes vont hurler. Ça sera intenable. Il en sacrifie un. Et pour lui, le plus connu, évidemment, c'était Béraud.
D'après vous, ça aurait pu être Béraud.
Béraud était condamné à mort.
Oui, non, mais je veux dire, mais pourquoi il a choisi Brasillac et pas Béraud?
Parce que Béraud était trop connu.
Hein,
il l'avait lu. Je pense que De Gaulle n'a jamais lu un seul roman de Brasillac. Oui. Et pas tellement Je suis partout avant la guerre, parce qu'il devait lire, comme tout le monde, Gringoire, Candide et peut-être
d'autres. Mais Béraud, il était peut-être plus anglophobe que germanophile.
Il était tout de même terriblement antisémite sous le Front Populaire.
Oui, oui, c'était bien avant, quand même.
Ah, bien avant, mais c'est le même combat qui continue. Hein. Moi, ce qui me frappe, c'est que le ton de tous ces journaux, qu'ils soient de droite et de gauche, est le même en 36-37 qu'en 41-44.
Et puis dans le procès de Béraud, on va pas parler de Béraud, parce que c'est un autre sujet, mais dans le procès de Béraud, qu'est-ce qu'on reproche à Béraud? On lui reproche Salin Gros. On lui reproche l'assassinat.
Oui, Gringoire.
L'affaire se fait en... L'assassinat. Le suicide.
Oui, le suicide.
L'affaire se boucle en 2 jours, ce qui est beaucoup pour un procès de l'épuration, parce qu'en général, c'était une journée ou moins.
Une demi-journée, on dit.
Et on lui reproche essentiellement l'affaire Salin Gros, ses campagnes de Gringoire contre le Front Populaire. Voilà, c'est
36,
ça.
Ah, oui, c'est...
Donc, moi, je pense que Brasillac a été fusillé parce qu'il fallait gracier Béraud. Hein, et
alors,
donc, pas les deux.
Alors, comme il nous reste plus que 10-12 minutes, Je vous propose donc, on va parler un peu de Rebatté quand même, parce que c'est le grand oublié de cette émission.
Mais pas du livre.
Non, pas de l'histoire, voilà. Parce que Rebatté, on en parle de plus en plus. Je dirais que...
Il vient de rééditer l'histoire de la musique.
Hein. Littérairement parlant, il va revenir.
Non, mais réellement, on se régale. Parce que de l'inventivité, on l'avait vu dans ses critiques cinématographiques, qui étaient des critiques politiques, hein, critiques très, très fortes. Hein. Et on le voit, pour moi, les meilleurs, à la fin, c'est Cousteau et Rebatté, qui ont toujours une invention, une malignité, toujours de l'humour. Bon. Et là, juste, bon, par exemple, il y a juste un petit passage, par exemple, parce qu'il y a, pour dire qu'il y a énormément, bon, c'est le fait que c'est un texte de Cousteau qui date d'octobre 43, Indulgence des polémistes. Bon. Et il compare, bon, rappelez-vous un peu leur mine dégoûtée lorsque parurent les bouquins de Céline et celui de Rebatté, et puis il passe, etc. Bon, ça n'était pas sérieux. Le sérieux, ce sont les œuvres de messieurs Bordeaux, Chaumet, Massis et Benjamin, donc il tape un peu.
Oui, sur la droite.
Ou les mots croisés de monsieur Claudel, ou encore les outrages compliqués qu'un monsieur Proust fait subir aux mouches dans un décor de bonne société. Ah bon. Mais Gabagatelle, mais l'école des cadavres, mais les décombres, fi donc. Ce sont d'abominables sacrilèges ou des plaisanteries sans conséquence, des jeux de tireurs de sonnettes, des mystifications pour gamins mal élevés, en un mot, de la polémique. Et comme ça continue, c'est un régal, le rythme ne baisse jamais, quoi.
Il y a une surenchère à la fin, je pense que c'est. Nous sommes pas des dégonflés, ça veut tout dire. Je crois qu'à la fin, vraiment, c'est.
Alors, je crois qu'il faut que vous le racontiez, cette histoire, nous ne sommes pas des dégonflés, quand même.
Oh, bah, il va le faire mieux que moi sur le salvagramme, le meeting,
dernier meeting. Oh, bah, c'est un meeting. C'est plus qu'un meeting. C'est une réunion qu'ils ont ensuite promenée en province et qui notamment a eu lieu à Bordeaux, où le maire de Bordeaux, Adrien Marquet, leur a accordé un accueil triomphal que Rebatté rappelait avec plaisir. Eh bien non, tout simplement, quand le journal de Je suis partout s'est mis de plus en plus à dériver dans la région ultra, hein, ce sont devenus les ultras de la collaboration, c'est-à-dire la demi-douzaine qui restait après le départ de Brasillac, Georges Blon et Henri Poulain essentiellement, il restait les ultras et ils traitaient tous les autres de dégonflés. Hein, et nous ne sommes pas des dégonflés, nous irons jusqu'au bout. Ce qui d'ailleurs entraînait, ça je l'ai appris bien après par Claude Maubourguet justement qui me l'a raconté, au sein du journal une atmosphère extrêmement malsaine de surexcitation, de trans perpétuelle. Et Maubourguet m'a dit d'ailleurs c'est pour ça que je suis parti, parce que j'en avais assez d'entendre ces espèces de grandes tirades enflammées et souvent déclamatoires et dont on savait au fond qu'elles n'étaient pas toujours
sincères. Et puis vous rappelez quand même qu'il recevait des menaces de mort de la...
Voilà.
Voilà, des petits cercueils.
Il recevait des petits cercueils.
Pario, lui. Ouais.
Des lettres anonymes, etc. Maubourguet, lui, en ayant assez de cette atmosphère, est parti. Il s'est engagé dans la milice, hein, et il s'est retrouvé sur le front de Normandie, où il a écrit de très beaux papiers, qu'il envoyait Je suis partout, qu'il les a publiés d'ailleurs en première, à la une, dans les derniers numéros. Mais les autres, donc, tenaient à affirmer, proclamer qu'ils n'étaient pas des dégonflés. Et on fait, alors là, vraiment, cette réunion au vitriol, où je crois bien... moi, j'ai connu des gens de ma famille qui ont assisté à l'épisode bordelais. Mais il y avait les mêmes, hein, c'était Rebatté, Cousteau, Ralph Soupeau, Lèbre, Lesca, et peut-être... Et j'entends encore quelqu'un de ma famille me dire, ce Ralph Soupeau, quand même, il exagère, il est terriblement grossier, c'est un peu un voyou. Hein, et c'est vrai que je crois qu'il s'était conduit à Bordeaux, et probablement Salvagramme à Paris avant, un peu comme un énergumène. Hein. C'est un personnage de Céline, Ralph Soupeau. Oui. Donc il avait fait un numéro célinien. Et Rebatté avait fait très fort aussi. Il avait fait, dans une ville comme Bordeaux, mauvaise impression. Alors que Cousteau, lui, qui était un peu l'enfant du pays, au contraire, avait séduit tout le monde par ses bonnes manières bordelaises.
Mais Laurent Faupeux à Bordeaux.
Bon, et donc justement pour cet auditeur qui était inquiet, bon, la plupart, enfin un certain nombre des textes de cette manifestation y figurent, enfin le compte rendu plus et en particulier le discours de Ralph Soupeau qui est
effectivement... Bah oui, parce qu'on a l'habitude de le voir dessiner, il parlait très peu, enfin il écrivait très peu.
très peu connu, mais
il y a une jolie biographie assez... de Choucault,
qui est sortie il y a 2-3 ans.
On voit pas souvent, enfin.
Oui, qui est sortie il y a
très intéressante, je trouve.
Fait par quelqu'un qui était plutôt de gauche, mais assez honnête.
Publié par un éditeur régional.
Oui, Caloyani. Ralph Caloyani, c'est non.
Ralph Soupeau est le héros de la célèbre nouvelle de Marcel Aimé qui se passe à Montmartre, là où l'on voit à la fois Céline, Jeanne-Paul. Et Avenue Junot, hein, c'est le titre de la nouvelle qui est, je crois, dans le passe-muraille. Et Ralph Soupeau est au moins figurant dans le générique de où il y a tous les amis de Céline. Hein. Et Ralph Soupeau faisait partie des proches de Céline et donc cultivait le genre Céline.
Ben voilà. Alors, ça permet. Je pense que cet ouvrage est passionnant parce que c'est une première pour les gens qui ne possèdent pas.
Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Parce que Francis Bergeron a la collection complète, je sais partout.
Complète, oh non. Et surtout, alors, ceux de la fin, je ne les ai pas, parce qu'on a toujours les mêmes. On a la fin des années 30, et surtout, effectivement, la période des gros tirages, on trouve assez facilement 41-42, mais alors après.
Est-ce que c'est coté, tous les.
On va pas en parler là, oui, c'est une certaine cote.
Tout ce
cote,
type évidemment. De presse a une cote. Voilà.
Moi, j'ai pas la collection complète, mais évidemment, j'en ai pas mal.
On pourra peut-être faire des échanges, Francis. Voilà. J'en ai en double.
Ah, moi, j'ai pas tellement de double. Je les ai déjà donnés.
Mais,
donc. Ou vendus, peut-être.
Ce que je dirais, c'est que ce premier gros travail, j'espère que donnera envie aux gens de, sans doute, pas seulement de lire les textes qui sont dans cet ouvrage, mais leur donnera peut-être envie de retrouver les livres. Ouais. Des auteurs qui ont signé dedans.
C'est pour ça que moi je
pense
que.
Parce qu'il y a eu, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 700 chroniqueurs, collaborateurs,
journalistes.
Quand on voit. Et donc ça veut dire plusieurs milliers d'ouvrages qui sont parus, qui ne sont pas réédités, mais qu'on peut trouver dans des brocantes, etc. Et relire des textes de l'époque de qualité dont on ne sait plus du tout qui sont ces gens aujourd'hui.
Et quand on voit qu'on réédite ou qu'on s'intéresse à des gens comme Fontenoy, je dirais que Fontenoy est peut-être même maintenant plus connu. Qu'il ne l'était, ou peut-être aussi connu, en tout cas qu'il n'était de son vivant, après 50 ans pendant lesquels plus personne ne savait qui c'était.
Et il le sera plus encore quand Philippe Vilger aura publié la biographie de Fontenoy que nous attendons
grâce
tous.
Notamment à M. Ratier, je crois. Voilà. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de sommes comme celle consacrée à Je suis partout consacré à d'autres journaux de l'époque ? Moi, je ne crois pas. C'est exceptionnel, ce qu'on est en train de...
Il reste beaucoup de travail à faire, parce qu'avec toutes les autres...
Il y a la Gerbe, il y en a plein d'autres.
Et la Chronique de Paris. Rééditer la Chronique de Paris, c'est un truc à faire.
Alors,
c'est incroyable.
Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je recevais ce soir Francis Bergeron pour Bardèche, une biographie de Maurice Bardèche, qui vient de sortir aux éditions Pardès, Philippe Dugue et... Pierre Gilliette, pour Je suis partout, anthologie 1932-1944, ouvrage qu'ils signeront à Librairie Fecta samedi prochain de 14 à 18 heures. Cette librairie se trouve 4 rue de Clichy, Paris 9e. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les éditeurs ont tiré trop peu d'ouvrages, nous vendrons les ouvrages dont nous disposons, donc je vous recommande de les réserver en téléphonant au 01 48 74 59 14. Et nous nous retrouverons donc dans 4 semaines pour une nouvelle émission, un nouveau Libre Journal de la Résistance française. À bientôt.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Emmanuel Ratier, assisté d'Henri Dubost, diffusé en direct mercredi 7 mars 2012 de 18h à 21h, en différé jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie.
Il est 20h57, voici le programme de la soirée de la nuit sur Radio Courtoisie. Tout à l'heure, à 21h30 et en direct, le libre journal de la nuit de Paul-Marie Couteau. À 23h, les nuits musicales, chants religieux polyphoniques, les lamentations de Jérémie de Roland de Lassus. À minuit, le libre journal des économistes, dirigé aujourd'hui exceptionnellement par Laurent-Arthur Duplessis. Invité Philippe Erlin, économiste. Le renouveau de l'or dans la crise économique. À 2h, le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Emmanuel Ratier, assisté d'Henri Dubost. Invité Jeanne Smits, Xavier Aimant et Jérôme Bourbon, journaliste. Mathilde Parsimperi, co-organisatrice des Bobards. Catherine Blin, présidente de Citoyenneté, Nationalité, Identité. Philippe Dugue, historien du cinéma, écrivain. Philippe Gilliette, écrivain, éditeur. Francis Bergeron, écrivain. Le clan de la presse, anthologie 1932-1944, Maurice Bardèche et la collaboration. À 6h, les livres du jour, le florilège des arts de Jean-Bernard Caourd-Aspry, assisté de Martine Masse et de Daria. Invité Gala Kaznob, journaliste, Ina Merkulova, directrice adjointe du Centre culturel russe à Paris. Une grande actrice franco-russe, Ida Rubinstein, la participation du Centre culturel russe au Salon du Livre de Paris. Et puis dans quelques instants, le bulletin de réinformation de ce matin.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, en clair, sur les bouquets satellites CanalSat et TNTSat, et pour le monde entier, sur notre site internet radiocourtoisie.fr.
Dans 30 minutes à 21h30 en direct, le libre journal de la nuit de Paul-Marie Couteau. Dans un quart d'heure, une page de musique classique présentée par Benoît. Et tout de suite, le bulletin de réinformation de ce matin présenté par Philippe Edmond, Marie Montfort et Hervé Bouloir. Je cède ma place à la technique. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie. Il est pile 21h.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre bulletin de réinformation de ce mercredi 7 mars 2012. Voici nos grands titres de l'actualité. Les combats continuent en Syrie. Fillon et le halal, la polémique, elle aussi, continue. Et biométrie, les Français se préparent à tous être fichés. Marie, avec la carte d'identité biométrique, les Français sont-ils prêts à se faire ficher ?
Hier a été adoptée la nouvelle carte d'identité avec deux empreintes digitales à poser, une puce contenant les informations d'état civil et les données biométriques, une autre optionnelle destinée à sécuriser les transactions de commerce électronique. Un fichier informatique national de données est aussi créé. Si quelques associations, la CNIL et quelques députés PS s'inquiètent, l'opinion publique, elle, n'est ni passionnée ni alarmée par le débat.
Pourquoi ce désintérêt des Français ?
Ce n'est pas vraiment de la docilité, mais une accoutumance au discours sécuritaire justifiant toute entreprise. Le consentement a été plus facile à obtenir qu'en 2005, où un précédent projet de loi avait été impulsé et où les associations s'étaient davantage mobilisées. Depuis, on s'habitue aux technologies de sécurité. Facebook qui s'est introduit dans le quotidien de 20 millions de Français. Alors si on consent à céder tant de données à un réseau social, pourquoi pas à l'État ? De plus, les priorités sont ailleurs avec la crise. On revient au débat sur l'équilibre entre puissance publique et libertés individuelles. De plus, le relais médiatique fut assez faible en cette période électorale.
Il y aurait une opinion favorable ?
Eh oui, en fait, les Français sont plutôt demandeurs. En 2005, une étude Ipsos indiquait que 74% des Français étaient favorables au projet de carte d'identité biométrique et à la création de ce fichier national. Est-ce dû à un fort sentiment de vulnérabilité ?
Quels sont les risques, finalement ?
Eh bien, tout simplement d'entrer dans un état policier où l'on veut des renseignements sur tous les Français. Chaque citoyen devient un suspect potentiel. Le site Les Incorruptibles propose alors quelques tentatives pour échapper au système. Vivre sans carte d'identité, puisqu'elle est facultative depuis 1955, en conserver une périmée, ou à condition de rester sur le territoire français, ou la renouveler avant la date d'entrée en vigueur et la garder 10 ans.
Alors il s'agit en fait du site Les Incorruptibles. Alors nous passons maintenant à un autre sujet. Abattage rituel, la polémique monte d'un cran. Hervé.
Justement, Hervé, il semble que les élections présidentielles se mêlent à nouveau de la question.
Lundi dernier, François Fillon avait affirmé que les religions devraient réfléchir au maintien de traditions qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'état aujourd'hui de la science, l'état de la technologie, les problèmes de santé. Fin de citation. Si les propos ne visaient pas explicitement un culte particulier, certains se sont sentis visés.
Quelles ont été les réactions des intéressés ?
On se doute qu'elles proviennent de représentants des fidèles dont les cultes recourent aux abattages rituels. Pour le président du CRIF, la déclaration de François Fillon est stupéfiante, je cite. Quant au grand rabbin de France, il se déclare gêné. Enfin, le Conseil français du culte musulman ne comprend pas et n'accepte pas que l'islam et les musulmans servent de bouc émissaire dans cette campagne électorale.
Et celle du marigot politique ?
Pour Christian Jacob, chef des députés UMP, il y a quand même d'autres sujets de préoccupation des Français, même si celui-ci en est un. François Hollande appelle François Fillon à la retenue. Pour Rachida Dati, adversaire de François Fillon dans le 7e arrondissement de Paris, le Premier ministre s'immisce dans les pratiques religieuses, il sort de son rôle. Je peux vous dire qu'il y a de nombreux religieux qui ont été vexés sur des questions de nourriture. Peu boivent les propos du Premier ministre.
Alors que conclure de toutes ces réactions ?
La critique de certaines religions est une chose impossible dans le paysage politique et médiatique qui soudainement perd ses ardeurs anti-religieuses. Critiquer le célibat des prêtres, affirmer que la chrétienté a engendré la Shoah comme le fit Jean-Luc Mélenchon, c'est possible. Mais oser mettre en cause des rituels qui posent des problèmes d'hygiène, vous aux gémonies.
Alors les combats continuent en Syrie.
Que peut-on savoir du contexte militaire ?
Les combats sont menés essentiellement par des insurgés musulmans fondamentalistes. Certains d'entre eux sont des Irakiens ou des Libyens venus de Misrata. Ces combats sont alimentés par de l'argent et des armes venus du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Ils ont lieu dans différentes parties de la Syrie.
L'opinion syrienne bascule-t-elle ?
Un second général a fait défection. Cela s'explique sans doute par le fait que sa ville natale de Rastan est bombardée. Par ailleurs, le pays ne semble pas basculer massivement dans la rébellion. Les villes de Damas et de Alep en particulier restent calmes. L'exemple de ce qui est arrivé au Liban ou en Irak doit en faire réfléchir beaucoup.
Comment le pouvoir syrien réagit-il ?
Bachar el-Assad affirme sa détermination. La Syrie tente aussi une offensive médiatique. Thierry Messan, ancien militant homosexualiste français, reconverti dans la formation au service de l'Iran et de la Syrie, affirme que des membres des services de sécurité français auraient été capturés à Homs. Jean-Dominique Merchet, du blog Secret Défense, affirme que ses sources militaires démentent. Il rappelle aussi qu'en Somalie, l'enlèvement de deux militaires français avait été reconnu immédiatement.
Et quelle est la situation humanitaire?
Plus de 1500 Syriens se sont réfugiés dans le nord-est du Liban, dans la Bekaa. Les localités de El Aa et de Arsal ont vu des réserves de nourriture et de médicaments pillées. Un pont menant au Liban a été bombardé par l'armée syrienne. Les insurgés continuent par ailleurs à signaler des morts dans diverses régions de Syrie. Ils accusent les hôpitaux militaires d'être des lieux de torture.
Quelles sont les conséquences diplomatiques de ces événements?
Après avoir condamné les déclarations de François Fillon contre la viande halal, Alain Juppé continue sa diplomatie pro-musulmane à propos de la Syrie. Il a demandé hier à la Russie de renoncer à son soutien à la Syrie après la réélection de Vladimir Poutine. Celui-ci a déclaré qu'il n'en était pas question. Et maintenant, les brèves de France. Être enceinte est-il un facteur de discrimination, Marie?
Le Monde Économie a titré hier « Être salarié et parent reste un défi ». Et de citer certains recruteurs qui préfèrent s'apesantir sur les questions de logistique familiale plutôt que d'évoquer l'expérience professionnelle face à une jeune femme qui, je cite, « risque de bientôt faire un enfant », ce qui, je cite encore, « va poser problème ». Des employeurs découragent d'avoir un enfant et lorsque le cas arrive, font des reproches, dénigrent le travail, bloquent une carrière. Cela peut aller jusqu'au non-renouvellement de CDD ou même au licenciement abusif. En dépit d'un taux d'activité des femmes qui dépasse en France les 66%, la maternité reste donc au cœur des inégalités entre hommes et femmes au travail, premier critère de discrimination cité par les victimes devançant même l'origine ethnique.
Alors on peut se demander si les Français sont encore carnivores. En effet, le magazine Le Point, sur son site internet, propose de choisir entre plusieurs affirmations à propos de la consommation de viande. Alors une bonne tête de veau persillade, un gigot d'agneau au thym, un tartare au capre, voilà nos traditions culturelles. La sensiblerie dans les assiettes, c'est ridicule, 45% des votes. Et 16% pour d'autres partisans de la viande. 13% trouvent au contraire que c'est la grandeur de l'homme de s'extraire du stade carnivore et barbare et se demande si les animaux avaient une âme. Alors François Bayrou, de son côté, se confie au Grand Orient, Hervé.
Le Grand Orient de France vient de publier un ouvrage qui reprend ses entretiens avec plusieurs candidats aux élections présidentielles. François Bayrou s'illustre dans une reconnaissance de la franc-maçonnerie, il confesse. « Je suis dans une situation philosophique particulière puisque je suis à la fois un croyant chrétien et un défenseur assidu, peut-être même acharné, peut-être même scrupuleux des principes de la laïcité. Cela fait donc deux liens. » Il reconnaît aussi que certains membres de l'éducation nationale sont engagés dans la démarche initiatique, je cite. François Bayrou conclut « J'ai constamment ressenti à l'égard de ce courant philosophique beaucoup de reconnaissance. »
Pour rester dans le domaine de la philosophie, une nouvelle campagne de l'ADMD pour le droit de mourir, Marie.
Oui, les trois candidats qui s'opposent à la légalisation de l'euthanasie, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Marine Le Pen, sont présentés sur le lit de mort à l'hôpital. Un photomontage titré « Doit-on vous mettre dans une telle position pour faire évoluer la vôtre sur l'euthanasie ?» Le blog Le Salon Beige imagine alors avec ironie le président de l'association pour le droit de mourir, Jean-Luc Romero, cloué dans un lit d'hôpital suite à un grave accident. Alors que choisiraient les médecins pour celui qui désire l'élimination progressive des personnes indésirables? Une campagne choc, c'est finalement le seul recours possible quand on veut défendre l'inversion des valeurs et la suppression du plus faible, car aucune autre argumentation n'est valable.
Nous passons aux nouvelles du monde. Alors, coquetterie salafiste en Égypte, Marie.
Oui, Anwar al-Balkimi vient d'être élu au Parlement du peuple égyptien, membre d'Al-Nour, un parti salafiste en pleine ascension. Parti pour une opération de chirurgie esthétique du nez, il est sorti en catimini de l'hôpital après avoir fait jurer au personnel médical de garder le secret. Et le lendemain, dans un autre hôpital, il a raconté une histoire rocambolesque